exactement 8h00 à Bukavu ce dimanche 26 avril 2026. Jean-Claude Ndagué assure la mise en onde devant ce micro pour la présentation d'Expédie Kialou. Vous suivez donc l'émission Paix et Développement de Radio Maendeleo. Un seul sujet au menu de l'émission de ce jour. Cela fait une semaine depuis la clôture du 9e round des discussions entre la FSAM-23 et le gouvernement de la RDC à Montreux en Suisse. Les deux parties ont réalisé des progrès substantiels en vue de la conclusion dans les jours qui suivent d'un protocole sur l'accès humanitaire et la protection judiciaire. Les deux parties conviennent de l'importance cruciale d'assurer une aide humanitaire vitale à la population de l'Est de la RDC. Au cours des négociations, les parties se sont convenues de respecter toutes les obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire, du droit international des droits de l'homme et du droit international des réfugiés selon le cas, et de se référer aux principes fondamentaux de la Constitution de la République démocratique du Congo. En plus de ces engagements qui s'inscrivent dans le cadre humanitaire, les parties ont signé un protocole d'accord qui modifie le mécanisme de vérification du cessez-le-feu en incluant le M23. Les parties et la CIRGL expriment leur volonté de procéder dans un délai d'une semaine aux premières missions de vérification du cessez-le-feu grâce au soutien logistique de la MONUSCO. Les parties conviennent aussi de procéder dans un délai de 10 jours à la libération des prisonniers, conformément au mécanisme signé le 14 septembre 2025, afin de continuer à renforcer la confiance. Quelle évaluation faire de ce 1e round des discussions ou disons de l'évolution du processus de paix? Nous en parlons dans Paix Développement ce dimanche, une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue. Merci de nous suivre sur 88.8 dans la ville de Bukavu, 91.7 dans les territoires et partout au monde à travers le www.radiomandeleo.org. Nous vous souhaitons donc un excellent dimanche. C'est donc un dimanche 26 février en cette année 2026. Avant bien évidemment d'entamer le vif de notre contenu, nous allons rappeler quelques faits marquant l'actualité déjà ce week-end et le long de la semaine. Partant aux États-Unis où, alors qu'il participait pour la première fois en tant que président au dîner des correspondants de la Maison-Blanche, Donald Trump a été évacué après des fortes détonations qui ont été entendues dans la salle où s'est déroulé l'événement. En présence de plusieurs centaines de personnes, un suspect a été arrêté et placé en détention selon le Secret Service. Il comparaîtra donc ce lundi 27 avril devant la justice américaine. Le président Trump a été évacué dîner des correspondants de la Maison Blanche où des tirs ont été entendus et un tireur présumé arrêté dans la soirée du samedi 25 avril selon des responsables de la sécurité des journalistes de l'AFP. Donald Trump et son épouse Melania Trump sont en sécurité, a précisé le Secret Service en charge de la protection des hautes personnalités américaines. Plusieurs centaines de personnes assistaient à cet événement annuel dans un grand hôtel de Washington quand l'incident s'est produit. Le dîner avait commencé depuis une vingtaine de minutes quand il y a eu au moins 4 fortes détonations. Le Secret Service a ensuite annoncé qu'il s'agissait des coups de feu. Il est alors immédiatement monté sur la scène où se trouvaient le président, la première dame ainsi que le vice-président pour former une boule de protection autour de ces 3 personnalités, rapporte la correspondante de RFI aux États-Unis. Elles ont ensuite été évacuées en quelques dizaines de secondes. Le temps de réaction a été extrêmement rapide. Les journalistes présents dans la salle se sont, eux, réfugiés sous les tables en attendant de déterminer exactement ce qui s'est passé, explique encore la correspondante. Sur des images diffusées à la télévision américaine, on voit les gardes du corps dégager le vice-président J.D. Vance de l'estrade. Puis le président américain qui semble trébucher. Sur une vidéo de l'AFP, on peut voir le président Trump smoking et le papillon assis à la table d'honneur alors que retentissent des coups sourds qui ne suscite dans un premier temps qu'une réaction, c'est dès qu'après quelques secondes que les convives semblent se rendre compte qu'un incident s'est produit, la première dame Melania Trump montrant un visage angoissé alors que le président semble sans réaction des agents et sécurité lourdement armés interviennent alors très rapidement et évacuent le président vers la gauche de l'estrade. La musique d'ambiance s'arrête alors que d'autres gardes enjambent la table et semblent tenir en joue le public. Comme vous l'avez suivi, un suspect a été appréhendé. Affirme donc Donald Trump sur sa plateforme. Donald Trump a salué le travail des services de sécurité et dit qu'un suspect a été appréhendé. Il comparaîtra donc demain lundi 27 avril devant la justice, ont annoncé les autorités américaines lors d'une conférence de presse. Vous l'avez suivi au courant de la semaine, les États-Unis envisagent de relocaliser plus d'un millier d'Afghans coincés au Qatar et qui pour la plupart ont collaboré avec l'armée américaine durant la guerre en Afghanistan. Relocalisés pour la République démocratique du Congo, un millier d'Afghans qui avaient donc aidé les États-Unis dans leur guerre contre les talibans pourraient ne jamais aller sur le sol américain, contrairement aux promesses qui leur ont été faites. Ils pourraient même être envoyés vers la RDC, annonce le New York Times. Ces interprètes qui ont aidé l'armée américaine dès 2001, d'anciens membres des forces spéciales afghanes et leurs familles, dont plus de 400 enfants, se trouvent actuellement au Qatar dans une ancienne base militaire américaine connue sous le nom de Camp As-Salia. Ce ne devrait être qu'une étape vers les États-Unis. Il est temps de remplir des formalités administratives, indique le New York Times, qui précise qu'une réinstallation est envisagée pour la République démocratique du Congo. Ces 1100 Afghans pourraient être envoyés donc en RDC, révèle le New York Times, mais également le Guardian, qui précise que l'administration Trump anti-immigration refuse de poursuivre un programme lancé par l'ancien président Joe Biden. Plus de visas spéciaux accordés aux Afghans après qu'un ressortissant qui souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique a tiré sur deux soldats de la garde nationale à Washington, c'était l'an dernier. Le nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en RDC, chef de la MONUSCO, James Swan, est arrivé vendredi à Goma, au Nord Kivu. Cette visite constitue la troisième étape de sa mission dans l'est du pays, après Beni et Ituri, des zones en proie à une insécurité persistante. À travers cette tournée, James Swan vient réaffirmer l'engagement de la MONUSCO dans le soutien au cessez-le-feu, la protection des civils et l'appui aux efforts de paix en cours. Et un premier convoi de 462 réfugiés congolais en provenance du Burundi a regagné la ville d'Uvira le jeudi dernier. Ce rapatriement volontaire a été organisé dans le cadre des accords existants entre le gouvernement du Burundi et celui de la RDC en coordination avec l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés ACR. Les rapatriés proviennent du site de Busuma situé dans la province de Bumumuza au Burundi. Selon le ACR, ce site abrite à lui seul plus de 66 000 réfugiés congolais depuis le début de l'année à la suite de l'intensification des combats à Uvira et dans les zones environnantes. Le ACR précise qu'à ce stade, près de 20 000 réfugiés congolais se sont déjà inscrits pour le processus de rapatriement volontaire vers leur pays d'origine. Parmi ce premier groupe figure Imani Kabo, une femme qui témoigne des conditions de vie difficiles au Burundi. La femme qui le refuse s'était transformée en véritable enfer, rendant le quotidien insoutenable pour des nombreux déplacés. Ce processus de retour des réfugiés devrait se poursuivre dans les prochaines semaines, selon des sources proches du dossier, dans le cadre d'un programme progressif du retour sécurisé et encadré. Avant le départ du site, le ACR accorde une assistance financière aux réfugiés afin de faciliter la préparation du voyage. À l'arrivée à Uvira, un appui est également prévu pour soutenir leur intégration socio-économique, précise le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et nous clôturons cette revue de l'actualité avec une information que vous avez déjà suivie. Il était prévu un fait au courant de la prochaine semaine. L'Assemblée provinciale du Sud Kivu invite donc les députés provinciaux à une séance plénière mardi. Cette plénière devrait se tenir à 10h au siège provincial de l'Assemblée provinciale à Kavivira dans la ville d'Uvira et prévoyait l'audition et les débats sur la motion de censure contre le gouvernement dirigé par Jean-Jacques Purusi Sadiki dans la partie sud de la province. Il s'est de rappeler que cette motion de censure portée par le député Karoumé Jean, élu du territoire de Mwenga pour le compte de l'Union Sacrée et plus précisément de l'UDPS, a déjà récolté 18 signatures. Mais à la suite de cela, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Chabani Louko, a sorti un télégramme. Nous allons le lire en synthèse. Stop, vous saluer et vous enjoindre. C'est d'abord un télégramme, message officiel destiné aux honorables membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu et le gouverneur du Sud Kivu. Stop, vous saluer et vous enjoindre. Stop, toute affaire cessante. Stop, dès la première occasion. Stop, prendre toutes les dispositions nécessaires. Stop, de rejoindre Kinshasa. Stop, motif consultation. Stop, il y a ordre. Stop, sentiment patriotique. Full stop. C'est donc le contenu de cette télégramme qui convie les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, le gouverneur du Sud Kivu, un gouverneur qui contrôle la partie sud de la province du Sud Kivu. Voilà, les deux tendances sont invitées à Kinshasa pour consultation avec le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, alors qu'il était prévu donc ce mardi 28 avril une plénière qui devait statuer sur la motion des censures contre le gouvernement Jean-Jacques Purusi Sadiki. Nous recevons dans ce studio Monsieur Dany Bashige, qui est un cadre de l'AFC M23. Dany Bashige, bonjour et bienvenue.
Bonjour Monsieur le journaliste, bonjour aux amis avec qui on va partager ce débat. Bonjour au peuple congolais qui nous suit en ce moment.
Nous recevons dans ce studio Mick Mutiki Kilumba, président du cadre de concertation de la société civile du Sud Kivu, expert en gouvernance sécuritaire. Mick Mutiki, bonjour.
Bonjour Expedi, bonjour aux co-débatteurs, bonjour à tous les auditeurs, des millions d'auditeurs de la radio Mandeléo partout où ils se trouvent.
Baraka Joseph, il est de l'Institut Patrice Emery Lumumba. Joseph, bonjour et bienvenue.
Bonjour, bonjour aux auditeurs, aux auditrices, bonjour aux co-débatteurs.
Nous faisons bien évidemment un commentaire de l'actualité, en commençant par ce qui se passe dans la partie sud de la province. Mick Mutiki, vous l'avez lu, dans un premier temps, il y a eu cette initiative des députés. 18 députés ont signé la motion de censure contre le gouvernement Purusi et vite fait, une plénière a été programmée pour le mardi 28 avril 2026 et dans la foulée, le VPM a tapé du poing sur la table en invitant les membres du bureau de l'Assemblée provinciale et le gouverneur du Sud qui vaut dans la partie sud de la province, Jean-Jacques Purusi, à Kinshasa pour des consultations. Quelle analyse faites-vous de cette actualité qui est évolutive au courant de la même semaine? Nous apprenons qu'il existe la motion, une plénière est programmée et du coup la hiérarchie à Kinshasa convoque les deux parties en conflit.
Merci beaucoup. Pour comprendre ce qui arrive aujourd'hui, il faut partir de la manière dont l'équipe Jean-Jacques Purusi et Jean-Jacques Elakano a été élu. D'abord, il faut comprendre que l'étiquette devait être Jean-Jacques Elakano comme candidat gouverneur et Jean-Jacques Purusi comme vice-gouverneur, tenant du poids politique par rapport au sein de l'Union Sacrée, par rapport à l'UDPS et l'AFDC. Il y a eu des jeux politiques, sûrement que Bahati Lukwebo il a joué pour que la carte change. Et il a réussi quand même à les mettre ensemble et l'étiquette s'est faite. Les cas de concertation font partie des plus grandes missions d'observation qui ont observé les élections. Premier tour, vous avez...
Et l'UNC, qui était membre de l'Union Sacrée, a aligné également un candidat.
Et l'UNC, qui était membre de l'Union Sacrée, a aligné un candidat gouverneur. Et la bataille était très serrée. Vous avez, au premier tour, Jean-Jacques, l'étiquette pour Roussy, qui engrange, je pense, 15 voix. L'étiquette Jean-Jacques engrange un certain nombre de voix. Je ne veux pas me perdre en conjecture. L'étiquette Soumaïli vient en deuxième lieu. Et ça a été très compliqué parce qu'il fallait que les
24
deux...
24 et
15. C'était 24 oui. et 15. Personne n'ayant obtenu la majorité, il fallait un deuxième tour. Et ce deuxième tour va se jouer comment?
En fait, nous revenons sur la scène. L'élection était intervenue le lundi 29 avril,
oui.
à l'issue de laquelle aucun de tous les candidats n'avait atteint la majorité absolue de voix, soit 25 voix. Mmh. La Commission électorale nationale indépendante avait prévu une élection au second tour qui devait opposer les deux premiers candidats, entre autres Jean-Jacques Pourroussi Sadiq, qui avait gagné 20 voix sur les 48, et Émile Soumaïli Misséga, qui avait réussi 15 sur les 48. À l'issue de ce second tour, l'élection s'est soldée en faveur du ticket Jean-Jacques Pourroussi.
Super. Mais vous allez voir au deuxième tour comment ça va se jouer. L'honorable Kantitima va avoir 11 voix.
Là, vous parlez des élections sénatoriales.
Oui. Vous allez comprendre là où ça cloche maintenant. Mmh. Honorable Kantitima a 9 voix. Honorable... Lukwebo a 9 voix.
Kantitima en a 11.
Kantitima en a eu 11. Okay. Et Lukwebo avait eu 9. L'alliance entre les deux va faire que déjà les candidats pour Roussi va avoir 20 voix. Mm-hmm. Plus, alors, il va y avoir des reports de voix pour les candidats. Pour les autres tickets, mm-hmm. il y avait un ticket conduit par l'ancien mm-hmm. ministre. Il était aussi député, il est de Kabaret. Aïe, aïe, aïe. Je vais m'en souvenir. Il avait ici voix.
Les sénateurs.
Non, pas les sénateurs. Je rentre au ticket parce que les reports de voix sénatoriales, je voulais juste montrer que c'est l'alliance Lukwebo et Kantitima qui a fait que ce ticket passe. Avec un apport de 11 voix. Mm-hmm. Alors, et puis les autres voix que le ticket a eu, c'était les reports de voix des candidats avec lesquels ils ont eu des alliances. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire par là? En ce net moment où l'alliance Kantitima Lukwebo bat à l'aile, ça doit nécessairement avoir de l'impact sur le gouvernement, donc l'architecture de la gouvernance au niveau du sud de la province. Du sud de la province. Ajoutez à cela que Lukwebo a du mal à en partir avec l'Union Sacrée. Ne vous en faites pas, expédie. Je pense, on a appelé tous les gardes du Parlement, du bureau du Parlement, pour deux choses. Parlement provincial. Pour deux choses. Soit pour leur donner le mot d'ordre sur comment va partir
pour
Roussy. Si pour Roussy ne se démarque pas de la ligne idéologique de Lukwebo. S'il survit, ça voudra dire que
entre Purusi et Lukwebo, il y a eu une démarcation politique. Et pour cela, l'UDPS déjà n'était pas d'accord que, en tant que grande force politique de l'Union sacrée, Abenda Mokila, comme on dit, soit en arrière-plan, derrière l'AFDC. Donc, je pense que mon petit frère Elakano, je l'appelle petit frère parce que nous, les Barega, nous sommes les grands frères de Babembe, ça c'est entre nous. Lui aussi, cette situation, en tout cas, l'arrange. Je ne dis pas qu'il est derrière ou il n'est pas, mais en tout cas, cette situation, parce que si le gouverneur saute, dans l'entretemps, il va expédier les affaires courantes, et puis il y aura les arguments qu'on ne va pas déstabiliser les institutions.
C'est une motion de censure qui doit faire sauter tout le gouvernement.
Tout le gouvernement, mais vous allez voir comment ça va finir. Alors, l'UDPS va récupérer Ebonganaï. C'est comme ça que je lis cette situation.
Voilà, Joseph, comment vous analysez également l'intervention vite fait du VPM de l'intérieur? C'est une situation qui a été dénoncée à maintes reprises, disons, l'influence du ministère national de l'Intérieur sur les institutions provinciales.
Bon, voilà. Donc, l'essentiel de ce qu'il faut comprendre pour mieux comprendre a été déjà dit. Alors, en tout cas, l'essentiel de cette mise en contexte était extrêmement importante. Et moi-même, en analysant cette question cette semaine, j'ai eu à rechercher un peu ça. Heureusement, l'expert est là. Il nous a fait une mise au point la plus pertinente possible. Alors, la lecture que je fais de cette intervention, que nous faisons d'ailleurs à l'Institut, de cette intervention du vice-premier ministre, a été interprétée d'abord dans un premier aspect, comme vient de le dire l'expert Mtiki, ensuite aussi comme peut-être une tentative de se dire, voilà, il y a, à part, donc je souligne que la lecture la plus probable est celle qui vient d'être placée. Soit le gouverneur Jean-Jacques Purusi s'aligne du côté de l'UDPS, de la ligne idéologique UDPS, et il se démarque de Lukwebo, alors là il reste. Soit il ne se démarque pas par fidélité ou par autre chose, je ne sais pas, alors il sautera. Alors ça, c'est la base. Maintenant, une fois cela dit, il faut comprendre que nous avons des gens qui se préoccupent d'autre chose que ce qui est nous comme population, parce que là, ici, il s'agit de se dire, j'ai lu la motion de censure et puis je me suis posé la question, en quoi tout ceci nous concernait, nous? Parce que la représentation au niveau provincial est celle d'abord du peuple, comme toutes les représentations d'ailleurs.
Là, vous répondez à une question que j'étais sur le point de poser, sur l'opportunité même de la motion.
Voilà un peu. Donc, nous, on se pose la question de savoir, quand on a lu la motion, on a vu les arguments, la mauvaise gouvernance, ainsi de suite. Mais on se dit, le contexte, c'est vrai, nous ne contestons pas le droit constitutionnel et légal des députés de faire leur travail. S'il y a mauvaise gouvernance, s'il y a corruption, s'il y a je ne sais pas quoi, tout ce qu'on peut dire, alors ils ont le devoir de peser lourd. Même si on ne dit jamais la vérité dans les actions politiques à l'international comme au niveau national, on ne dit pas je vais le chasser parce que j'ai besoin de prendre sa place. On dit, bon voilà, il y a la mauvaise gouvernance, il y a ceci et cela, et les détournements de fonds comme ils l'ont fait.
Il faut rappeler qu'on a reproché à Purusi son ralliement à l'AFC, donc
tout simplement pour ne pas dire qu'on veut prendre
qui
sa
veut
place.
Noyer son chien,
on sait ce qu'il rage. Non, c'est lui qui veut noyer son chien, il sait ce qu'il veut en faire.
Oui, voilà. Lui, il sait ce qu'il veut en faire, voilà. Donc l'idée c'est que nous, on se pose, voilà, ils ont leurs arguments qu'ils ont présentés, mais bon, quelles sont nos grandes préoccupations, nous? Parce que là, ici et maintenant, nous voudrions qu'il y ait des gens qui disent, je crois que nous devons dépasser le fait que nous sommes Lega ou Bashi, nous devons dépasser le fait que nous sommes UDPS, UNC ou quoi, et nous tenir compte du fait que ceux qui nous représentent ont peut-être des priorités autres que ce qui peut nous diviser. Donc là, je dis, et la province, et le gouvernement provincial, et la députation dont elle émane, et ou les députés dont elle émane, le Parlement provincial, et même la présidence et tout de suite, tous devaient avoir une seule préoccupation maintenant, c'est de savoir cette population qui nous représente. Voilà, nous gérons une partie de la province, le sud, c'est ça, et une autre partie est gérée par la FCM 23, mais ceux qui sont au niveau de la province que nous, de la partie que nous gérons, et ceux qui sont de la partie que nous ne gérons pas, tous, nous émanons de tous, et s'il faut trouver une formule, je ne sais laquelle, pour que nous cessions avec nos divisions et que nous nous concentrons sur ce qu'ils ont le plus besoin, on va se rendre compte que ce n'est pas d'abord... Je n'interprète pas comme déstabilisation des institutions s'il y a mauvaise gouvernance, vous voyez ?
Voilà.
Mais je l'interprète aussi comme désordre, parce que ça ne correspond en aucun cas à nos préoccupations les plus fondamentales. Nous, par exemple, qui sommes en zone actuellement occupée ou gérée par le mouvement 1-23, on dit libéré, voilà. C'est les termes qu'il faut utiliser parce que c'est là qu'on est, c'est ce qu'on préfère. Mais bon, voilà, je dis cela pour dire, nous avons des préoccupations sociales qui sont les plus criantes. Nous les vivons vraiment dans nos corps, nos âmes, et personne ne peut nous contester le droit de les dire. Nous vivons des situations, des perturbations très graves, parfois d'accès aux documents. On a dit que pour avoir des documents, même là où vira, où c'est géré, c'est extrêmement compliqué. Je voudrais qu'il y ait une mention, parce que par exemple, on dit que ceux qui ont été réfugiés au Nord Kivu, au Burundi, n'ont pas eu une assistance telle qu'on le pourrait. Je voudrais qu'on dise, par exemple, que l'accès aux documents n'est pas facilité dans ce contexte le plus difficile qui soit aux gens. Je voudrais qu'on dise que, bon, voilà, il y avait possibilité de coordonner avec les institutions au niveau national pour je ne sais pas quoi. Coordonner ou communier avec tout le monde. Je ne dis pas seulement la zone qu'on gère, mais tout le monde. Je voudrais même dire une chose qui blessera peut-être les uns ou les autres, mais je voudrais même que les deux parties ici, ceux qui gèrent l'un l'autre, puisqu'ils sont à la fin tous congolais, qu'ils se souviennent tous que s'ils avaient une mission à faire, c'était de se préoccuper de baisser la politique et l'art de rendre la vie des gens heureux. Et si on est incapable, par stupidité ou incompétence, de les rendre heureux, on devrait quand même éviter de les rendre malheureux. Voilà. Et des deux côtés, vous, ceux du M23 comme ceux du gouvernance, devaient tout faire pour ne pas nous rendre la vie malheureuse s'ils n'arrivent pas à nous la rendre heureuse. Et s'ils devaient collaborer pour ça. Moi, je n'ai pas à savoir ce que Kinshasa pense ou ce que les autres pensent si c'est pour nous rendre la vie difficile. Ils devaient collaborer pour ça. On ne devait pas avoir 1000 barrières au niveau... On ne devait pas traverser la zone occupée par le M23 et ne pas avoir de barrières. Et quand on arrive dans la zone occupée par que gère notre gouvernement, avoir 1000 barrières alors qu'il y a des gouvernants qui sont là et qui savent. J'ai un frère qui vient par exemple du Grand Nord et qui me dit mais c'est compliqué les zones que j'ai traversées.
Donc pour une motion, il devait exister par exemple pour la question des barrières.
Sur des barrières, la peine de la rosée, ce qu'on convoque le gouverneur, on lui dit mais qu'est-ce qui se passe? Vous rendez la vie des gens difficile, ils quittent un milieu où la situation sociale n'est pas facile, ils arrivent ici par exemple pour des échanges commerciaux ou pas, et nous pesons sur eux, ainsi de suite. Mais voir des gens, n'est jamais pensé aux choses qui nous intéressent les plus, qui nous concernent les plus, et se retrouver en train de se déchirer comme des petits enfants qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur comment partager leurs bonbons, ça ne va pas.
Donc je pense qu'il faut la représentation provinciale devrait s'occuper et se focaliser davantage sur les questions d'intérêt communautaire, d'intérêt
et social. Et c'est là leur parce mission rappelle, principale.
La représentation provinciale ne s'est jamais prononcée disons avec acuité sur la question de la sécurité ou de la paix.
Mais ça fait 15 ans. Oui, cette province est toujours instable. Quand on lit les motions, on voit ce qui est avancé toujours comme argument, mais ça ne va pas. À un moment, ça ne va pas. Je ne sais même pas si un. Je ne sais pas. Je préfère m'arrêter là. Puisque
voilà. Danny Bachigué, vous êtes cadre de l'AFM 23, mais dans le passé, vous avez été dans des formations politiques qui ont été aux côtés, par exemple, de l'AFDC. Nous citons, par exemple, l'Alternative citoyenne et humaniste. Vous avez été à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Vous connaissez un peu les combines, vous connaissez le contexte de la gouvernance au Sud Kivu. Pour vous, dans un premier temps, est-ce que l'initiative des députés était opportune?
Bon, je pouvais même dire que ce débat ne m'intéresserait pas comme au mouvement de AFC 23, parce que nous observons leurs agitations, leurs agissements. On s'est dit, c'est toujours les histoires de Kinshasa. Ils sont dans leur exercice de chaque jour. Mais nous sommes obligés quand même d'en parler. Parce que c'est la vie du Congo qui en pâtit. J'ai été très content du speech de Mick Mutiki et même du docteur Baraka. Mais j'aurais voulu que Baraka fasse un effort pour être beaucoup plus clair. Montrer que, c'est vrai, la motion devait être orientée vers le social de la population du côté d'Ouvira. Parce qu'on ne comprend pas comment, de l'autre côté où c'est contrôlé par les soi-disant gouvernements, c'est chaotique par rapport au côté contrôlé ou dirigé par le mouvement de la révolution.
Bon,
c'est relativisé.
C'est une notion, mais il faut dire que la crise est générale.
Oui, donc, oui, c'est relativisé.
Les pots sont troués, que ce soit au corps comme à Ouvira.
Je ne vais pas beaucoup y insister.
Voilà.
Mais bon, retenons une chose. Mick a dit comment les cartes ont été montées dès le début. On voit les tickets pour aussi avec Elakano. Mais dans un premier temps, nous connaissons la vision d'un Elakano. Je ne vais pas m'apesantir trop sur ses origines des pères de tomber dans presque la futilité tribalo-ethnique. Je ne vais pas. Mais Elakano, qui accepte d'être quand même vice-gouverneur, mais élu député national. Vous imaginez, moi dans un premier temps, je m'étais dit, ça ne va pas bien marcher ici. Parce qu'un élu, un député national, accepter d'être vice-gouverneur d'un quelqu'un qui n'a jamais été élu. Et puis, celui qui accepte d'être candidat vice-gouverneur, il est du parti qui dirige l'IDPS. Et nous connaissons tous comment l'IDPS réfléchit, comment l'IDPS agit. Mais il accepte. Moi, je m'étais dit, il y a Anguille Souroche. Partons seulement, mais il n'y a pas d'espoir. No hope. Mais bon, ils ont fait quand même un peu d'effort. On a vu le détournement, on a vu comment ils sont partis avec les minerais ici, les lingots d'or et consorts. Je crois que cela leur a permis de vivre encore ensemble comme ils étaient dans des... Comment on dit comme ils étaient dans des combines négatives.
Il faut peut-être dire aussi bon, que le contexte de la guerre a permis que le gouvernement traîne en longueur là-bas parce qu'ils étaient en refuge... Et bon, ils étaient tout le temps en déplacement, que ce soit à Baraka,
les contextes de la guerre,
ça n'a pas permis peut-être aux députés d'activer leur
initiative. Les contextes de la guerre les a sauvés même. Les contextes de la guerre a sauvé beaucoup plus pour eux. Parce que la question là des lingots d'or allait l'amener jusqu'au Goligota. Mais bon, retenons qu'ils sont partis à Ouvira. Vous voyez, ils vivent là comme des souris qui quittent Burundi, viennent dans l'Ouvira là-bas, presque dans une commune, ok? Et puis il rentre et on se demande, pour aussi, quand vous l'appelez gouverneur, je me demande, vous auriez dû l'appeler même si vous le respectez beaucoup, maire de la ville d'Ouvira. Parce qu'il est au-delà de la ville, là, il ne peut pas aller au-delà. Il ne peut pas faire baraque. Il n'est pas à mesure de quitter, donc, la petite ville là, d'Ouvira. Il n'est pas à mesure. Mais, ils sont restés là. Et nous, on s'est dit, ils ne sont pas sages. Et je crois que les gens de Kinshasa ont finalement compris. Est-ce que ça vaut la peine qu'on laisse ces gens ici? D'abord, ce sont des enfants qui sont hébergés dans une parcelle d'autrui. Et le propriétaire de la parcelle n'est pas loin de vous. Il est à côté de vous là-bas. Vous commencez à vous faire la guerre entre vous dans une parcelle d'autrui et le propriétaire est à côté.
Autrui, mais ça veut dire.
De qui
autrui, comme ça veut autrui,
dire. Non, considérant qu'Ouvira, c'est un territoire
qui
fait partie de la province.
C'est ce que je vais dire.
Donc le gouvernorat peut se baser à Chabunda, chez Mick Moutiki, à Moinga, partout.
Je voudrais dire que Uvira était déjà sous contrôle du mouvement AFC-M23. Et nous, on avait accepté de quitter Uvira pour faciliter la tâche aux militaires burundais de quitter Uvira et rentrer chez eux.
Non, mais pas seulement.
Et faciliter aussi le retour des réfugiés congolais vivant au Burundi de rentrer à Uvira. Entre autres cela. Et nous, on avait accepté, s'il vous plaît, docteur, s'il vous plaît. Et nous, on avait accepté de quitter Uvira. Mais tout en sachant que si les lignes ne sont pas respectées, nous allons y rentrer. C'est pour cette raison que je développe cette hypothèse-là. Et donc, si les amis sont intelligents et sages, ils auraient dit enterrer d'abord les haches de guerre. Et se dire, le propriétaire d'ici peut revenir à tout moment parce que nous risquons de les fâcher.
Donc, pour vous, c'est Mick Moutiki, je reviens vers vous. C'est un motif qui peut justifier que l'AFCM 23 disent à la communauté nationale et internationale qu'il y a une faille de gouvernance et justifie son retour dans la zone.
Et là, je vais vous faire une anecdote. Comment la société civile a raté le gouvernorat du Sud Kivu après les dialogues de Sainte-Cité? Je ne vais pas citer les noms des gens. Mais il y a deux acteurs de la société civile majeure du Sud Kivu, un Murega, un Mouche, qui vont se retrouver en train de se battre pour ce même poste. Dans ces tohu-bohu, la partie RCD, qui était toujours en chat échaudé avec la société civile pendant toute la période de règne du RCD. Alors, le docteur Roberto a eu de bons mots pour aller chez Swing et lui dire, regardez ces gens de la société civile, on vous disait que ce sont des extrémistes. Si entre eux-mêmes ils peuvent se mener une bataille aussi farouche que ça, à plus forte raison, pour les questions de paix, vous pensez qu'ils vont être capables? Et c'est comme ça que la carte va changer. Ça, c'est vécu ici, après le dialogue intercongolais. C'est ainsi que les cartes vont changer et on va donner ça à l'opposition politique non armée par Witekante, Ibrahim Witekante Mianda, qui venait de l'opposition politique non armée portée par Arthur Zaïdi Ngoma, et à la société civile on va donner le vice-gouvernorat et on va alors créer un autre vice-gouverneur pour les finances, Thomas Nziratimana, pour équilibrer. Je vous parle de ça pour dire que dans un processus de paix, pendant que vous êtes sur une table de négociation, et vous alimentez pratiquement les arguments de l'autre en n'étant pas suffisamment cohérent et uni. Parce que pendant qu'on parle de conditions de vie de la population des réfugiés congolais vivant au Burundi, c'est une évidence, personne n'en fait allusion, et ce sont là les questions qui intéressent la communauté nationale et internationale.
Pendant qu'on... qu'il y a un document qu'on fait payer à $75 sur place
à Uvira,
tenant lieu de passeport,
d'une validité de six mois donc, juste parce qu'on l'a mis sous format livret,
voilà.
Mais il garde la même validité et tout, mais on fait ça.
Il y a des problèmes, par exemple, pour les citoyens de Bukavu du Sud Kivu d'accéder au passeport. Ils sont obligés de se déplacer vers Beni.
Tous ces problèmes-là.
C'est pour ça qu'on devait avoir des motions.
Et même les députés provinciaux, aucun n'a jamais même dit Paulé. Même les élus de Bukavu, que ce soit les nationaux, que ce soit les provinciaux, personne n'a jamais dit Bandugietu, Paulé, Kubiemuko Munaishikule. Il y a une sorte de caporalisation de débat, une sorte de discours inique. Ça veut dire, c'est comme si on demande à tout le monde ingérer le Rwanda, dites que Kagame a des cornes et la queue, c'est diable en question, que tout ça, injuriez, mais ne parlez pas de vos problèmes. Parce que quand vous parlez de vos problèmes, ça veut dire que vous n'êtes pas pour la République. C'est, en clair, c'est ça. Même les députés, ils ne sont pas capables de parler sur le vrai problème de la République, parce que ça va mettre à nu. Il y a la question du changement constitutionnel. Vous n'êtes pas en train de vous imaginer cette affaire nous amène dans quel gouffre. S'il y a changement constitutionnel, parce que les députés provinciaux sont concernés, ce sont des élus du peuple.
C'est l'émanation du peuple.
Que pense les Congolais moyens? Il dit
le
quoi?
Le peuple du Sud qui
le peuple du Sud qui par rapport à ça. Il dit ceci. Je suis mieux placé pour le dire en tant que président du cadre de concertation de la société civile, et je l'ai dit tout haut. Ils disent, si on change la constitution, ça veut dire que tous les arguments de l'internationalisation ou de la régionalisation du conflit tombent. La rébellion du M23 sera regaillardie parce que il brandirait désormais un argument purement congolais en disant que nous nous battons pour que on ne change pas l'ordre constitutionnel dans le pays. Et je vous assure, le droit de guerre, nous étions ici avec l'Ené Moupira le dimanche passé, il vous a expliqué comment les Nations Unies reconnaissent les droits du peuple à l'autodétermination, à faire même la guerre s'il trouve que les principes fondamentaux liant sa vie sont mis en selle ou en branle. Au cas où ils insisteraient jusqu'à faire le forcing, quelle est la conséquence? La partie ici où nous sommes, on dira, nous on ne reconnaît pas votre constitution. Nous restons avec l'ancienne constitution. Vous savez la conséquence? Ça veut dire qu'on aura des pays dans un même pays qu'on appelle la République démocratique du Congo.
Vous avez ouvert les guillemets, vous les fermez également.
Et pour je l'ai pour dire que
les députés devaient
se concentrer sur ce genre de questions, mais malheureusement ils n'en sont plus capables parce qu'il y a une épée de Damoclès qui ne permet plus à...
Ils sont issus des partis politiques.
Ils sont issus des partis politiques et le mot loyauté ici, bon, on est en train de t'égorger et tu dis, bon, moi, loyauté au président de la République. Cette façon de faire, bon, nous, on commence à se demander, ça tient à quoi?
Je reviens sur la question, l'intervention du VPM, comment vous l'analysez?
Moi, je l'ai dit clairement. Le VPM, c'était le chef de la campagne du président Fatih. Et le président Fatih, maintenant là, il n'a pas d'autre carte. Il ne voit ni le présent, il ne voit ni le passé, il ne voit que son avenir politique, qu'est-ce qu'il devient après 2028. Et comme, moi je le considère d'abord comme l'homme de main du président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne voit que 2028 pour lui. Son sort en 2028, je pense, le préoccupe par rapport à ses heures de sommeil, par rapport à son alimentation actuellement. Et je pense que le fait que Bahati Lukwebo, qui est la deuxième force de son regroupement Union Sacrée, se soit prononcé contre le changement constitutionnel, je vous assure, c'est ça le nœud du problème. On peut aller à gauche, à droite, mais cette affaire d'Ouvira a sa source à partir du discours de Bahati Lukwebo. Alors, le VPM veut juste résoudre un problème. Je l'ai dit, si... parce qu'ils ont la carte, l'autre Jean-Jacques et la Cano. Il est prêt, lui c'est, je vous dis, le mentor politique de Elakano s'appelle
vous parlez de qui?
Le VPM. Chabani Louko. Jacquemin Chabani Louko, c'est le mentor politique de Elakano.
Oui, oui, justement, ils sont dans une obédience.
C'est une parce dans que dans leur UDPS, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'obédience. Il y a l'obédience Mbata, il y a l'obédience le président
Eteni
Longondo. Oui, notre frère d'ici, Bizibou Balola, ils ont beaucoup d'obédience, mais je vous dis, Elakano est de l'obédience
Chaban. Oui, oui, ça c'est clair.
Et ce qu'il, la seule chose qui va être déterminante, j'ai suivi dans un film, Game of Thrones, on dit, les gens pensent que le pouvoir se trouve en haut, on les cueille d'en haut. Alors que, souvent le pouvoir, il faut se pencher, il faut s'agenouiller, il faut s'asseoir, parfois même dormir par terre pour avoir le pouvoir. C'est ça l'exercice auquel va être soumis
Bourroussi.
Dans l'entretemps, le bureau de l'Assemblée est convoqué. Alors, l'attitude de Bourroussi obligera la consigne qui sera donnée au bureau de l'Assemblée. Si Bourroussi se penche, se met à genoux, s'assoit par terre, dort par terre, pour dire, moi, je soutiens, je suis loyal au chef de l'État, roi soleil, autorité de référence de l'Union sacrée, et jamais, jamais, je ne parlerai au nom de Bahati Lukwebo dans ce site qui vous l'a. Laissez-moi comme gouverneur, je vous assure, Bourroussi revient. Et s'il donne des garanties. Et dans ce cas, on va lui mettre son propre vice-gouverneur comme agent de surveillance. Le jour que Atafanya Kati Tutuka Moa Kenya Kanani Banamupakula. C'est ça la situation. En tout cas, il est vraiment dans les sales draps.
Voilà.
Et auquel cas, bon, donc il n'y a rien d'intérêt de la population dans ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de prendre en compte que toute cette affaire a trait à l'affaire de changement de la constitution.
C'est ça la genèse.
C'est ça la genèse de toute cette situation.
Donc il paye pour, disons, un péché qu'on a calqué.
Pas son père.
Modeste Bahati Lukwebo.
Et alors, on lui dit, si c'est pas toi, c'est l'un des tiens.
Voilà, merci beaucoup Dani. Un ajout encore.
Bon, un petit ajout. Je voulais rentrer un tout petit peu en arrière avant de conclure. Il nous souviendra effectivement, comme l'a dit Mick Mutiki, qui avait un ticket Somaïli. Et quand on voit comment les députés sont divisés à Ouvira, on se rend compte qu'il y a les députés de l'INC et les députés ressortissants d'ici de Sid qui sont pour la motion par rapport. C'est vrai, il y a des cas isolés. Prenons le cas de. Les garçons de Calais, comment ils s'appellent?
Les bons Fundiko,
qui est de l'INC.
Sangoisse également, qui est de l'INC.
Sangoisse, qui est de l'INC.
Même si tous les UNC ne sont pas signataires de la motion.
Mais on comprend. On comprend que c'est comme ça.
Et le parti UNC à part entière ne s'est pas encore prononcé.
Mais dans tout ceci, il faut vous souvenir que ces combats, si ça perdure, ça vient aussi de nos soi-disant leaders politiques. Parce que je crois qu'eux-mêmes n'arrivent pas à se souvenir de certaines choses. Mick venait de soulever le problème de Lukwebo. Lukwebo s'est tout simplement prononcé contre la révision ou la modification de la Constitution et du coup, on l'a mis dehors. N'est-ce pas? Mais dans l'entretemps, on se souvient que le député pro-Lukwebo était contre aussi l'histoire des caméras. Aujourd'hui, ça revient. Vous vous rendez compte? Est-ce que c'est pas une question de se régler les conflits ou quoi? Je crois que nous ne devons pas aussi oublier cela.
Justement.
Bon, maintenant revenons à la question. On les appelle à Kinshasa. Pourquoi? Pourquoi on les appelle à Kinshasa? Comment vous appelez les documents là?
Le télégramme.
Qui appelle le gouverneur Bourroussi, le gouverneur qui contrôle seulement Ouvira, et le président de l'Assemblée provinciale. Parce que lui aussi, il y avait aussi des questions déjà sur lui. Ça, il ne faut pas oublier. Et je crois que entre eux, c'était encore le camp maintenant de Lukwebo, avec d'autres députés, contre maintenant, le président de l'Assemblée qui est considéré comme l'homme de Katitima. Vous comprenez? C'est là que je vous ai dit, c'est des enfants moins sages, qui vivent dans une parcelle d'autrui, mais qui ne comprennent pas qu'ils ont le devoir de rester calmes pour voir s'ils peuvent encore rester là pendant un petit temps.
Merci.
Alors, je conclue en disant, si on les a appelés à Kinshasa, moi je ne suis pas prophète de malheur de qui que ce soit, mais je vous dis, Urusi ne rentrera pas, contrairement à ce que vient de dire Mick Mutiki. Pourquoi je l'ai dit?
C'est pas ce que j'ai dit.
Pourquoi je l'ai dit? Non, ça, nous faisons des analyses.
Bon, Mutiki a donné des hypothèses.
J'ai donné des hypothèses.
Il a dit qu'il se comporte de cette façon, il peut revenir.
Ouais. Et s'il ne,
mais s'il ne se comporte pas, il ne revient pas.
C'est ça.
Mais moi, je sais que le problème actuel, c'est au-delà de cette première hypothèse, pensant que s'il sera baissé, il peut rentrer. Non, le problème, c'est un problème qui, pour moi, c'est un problème de chasse à l'homme. Permettez-moi de ce terme. L'IDPS qui voit maintenant Lukwebo, parce que pour nous, si en soi, il constitue quoi comme danger pour l'IDPS? Rien, aucun danger. Mais c'est un problème de règlement des comptes. C'est Lukwebo a refusé la révision, la modification de la Constitution.
C'est ça.
Alors, on les met à côté. Et il faut mettre à côté tous ces hommes, sans exception. Mettez-vous ça en tête. C'est pour aussi qu'on appelle à Kinshasa. Bon, il va à Kinshasa. Et puis, c'est comme si à quoi qu'il y a quitté Nakoule Ouvira. Il est là bon, pour seulement de petits temps. Mais quand on va lui dire, voici. Mais lui aussi, il a des conseils qui vont lui dire, mais faire des courbettes jusqu'à ce niveau, parce que vous contrôlez encore quoi? Encore que c'est possible que la guerre continue, parce que Chilombo peut violer encore les accords, encore que tout n'est pas encore conclu, et donc il n'a pas toutes les garanties possibles pour dire qu'il peut faire ces courbettes-là. Et donc on va les maintenir à Kinshasa. À un moment donné, on va demander au président de l'Assemblée provinciale, après un temps, parce que lui aussi ne va pas rentrer vite, il va traîner là pendant beaucoup de temps, le temps que, parce qu'ils vont jouer à la politique de l'usure, le temps que les gens se fatiguent, et dans l'entretemps, et la CANO continue à gérer, et jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, c'est quand? Parce que nous aussi, on est là, comme mouvement AF523, nous ne sommes pas là pour observer des individus qui sont en train de torpiller le pays comme ça. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous nous sommes engagés à redonner au Congo son image, faire respecter les Congolais. Et avec tout ce que nous vivons, nous ne pouvons pas continuer à les observer.
Voilà, Joseph, comment faire pour mettre fin à cet interventionnisme que nous avons dénoncé, qui a été dénoncé à maintes reprises par devant justement ce micro de Radio Mandela dans ce studio. Visiblement, la tendance, c'est que la carte de la gouvernance au Sud Kivu se joue à Kinshasa. Ce sont des personnalités qui décident d'ôter tel gouverneur comme s'ils étaient en train d'ôter leurs chaussures et consorts. Donc, quand ils ne sont pas en odeur de sainteté avec l'autorité morale, comme nous le disons souvent, du gouverneur qui gère la province, ils font la guerre à cette autorité morale en passant par ces lieutenants qui sont en province, les députés et consorts. Comment mettre fin? On pensait que, bon, au vu de ce qui a été vécu lors de la législature passée, la situation serait un peu différente, mais visiblement, les hommes sont passés, mais les mêmes pratiques sont restées et l'habitude est restée ancrée pratiquement dans la mémoire.
Et cette pratique restera, même si l'AMCM23 prend tout le Congo, et cette pratique restera. Parce que je veux ensuite, nous, en l'Institut Patrice Lumumba, nous savons qu'il faut repenser le Congo et il faut repenser même l'organisation politique et sociale et tout ce qu'il y a, mais l'organisation politique du Congo. Donc nous sommes partisans en fait du changement. C'est pas seulement de la constitution, mais de constitution. Il y a une nuance à faire là-bas, de constitution. Nous en sommes, mais seulement nous contestons seulement ce changement actuel parce que c'est fait par les mauvaises personnes au mauvais moment et pour une mauvaise intention. Ça, il faut que ce soit souligné comme ça. Je le répète, nous sommes pour un changement de constitution, mais nous sommes contre celui qui est fait actuellement parce que c'est fait par les mauvaises personnes au mauvais moment, de la mauvaise manière et pour une mauvaise intention qui est de se pérenniser tout simplement au pouvoir. Et je souligne que c'est important de le dire parce que, autre chose, le but de ce changement de constitution doit être de créer les conditions politiques de possibilité d'un Congo nouveau dont parle l'AFCM23, mais c'est pour cela, en fait, il faut changer de constitution, pas la constitution, de constitution. Parce que un changement de constitution, c'est une rupture, c'est une révolution conceptuelle, ontologique même, de la conception du pouvoir, de la gouvernance et de tout ce qu'on fait. Et là, je vais parler quand même à nos amis du 1-23, parce que c'est pas comme ça que vous allez nous convaincre, nous qui sommes partisans du changement de constitution. Chez autrui, ça veut dire où ? Il n'y a qu'un seul possesseur de tout ça, c'est le peuple. Et vous tous, vous ne pouvez que agir en son nom ou faire ce qui émane de lui. Il n'y a pas un autrui des uns et des autres. Moi, je sais que je suis congolais. Ouvira, c'est chez moi. Ceux qui sont d'Ouvira ici, c'est chez eux. Au Bourriga, c'est chez moi, n'est-ce pas? Et comme celui qui est chez les Lega, il est chez lui, chez les Bouchi. Parce que je vais pas entrer dans des questions personnelles comme ça. Mais au moins, je dis, alors, Si Chaban il doit dire que ceux du M23 sont chez lui, il va les chasser de cela. Il va oublier que ceux qu'il chasse sont aussi congolais. Supposons que je suis membre du M23 maintenant. Il va dire qu'il va me chasser moi, de chez moi. J'ai entendu les gens du M23 parfois dire, vous allez nous chasser pour aller où alors que nous aussi on est congolais. Vous voyez? Alors, si vous allez dire que vous allez chasser l'autre aussi, de chez lui aussi qu'il est congolais, ça c'est penser à... C'est en fait tout ça qui nous énerve, nous qui voulons un autre Congo vu autrement et qui se disent, nous pouvons avoir des différents politiques, mais nous ne devons pas avoir des différences sur ce que nous voulons faire de ce pays et de la manière où nous devrions le faire.
C'est cette différence politique, effectivement, que j'ai fait allusion.
Non, mais attendez, vous êtes en train de m'expliquer qu'il y a chez vous, que vous possédez, et que moi je ne suis pas d'accord avec ça.
Que nous contrôlons.
Que vous contrôlez.
Oui.
Oui, mais c'est ça, je dis, vous le faites au nom de qui? Je parle de cette révolution ontologique de la conception du pouvoir et de la manière dont il faut le faire. Donc, ce que je dis est que, pour résoudre cette question de fond, il faut résoudre quatre choses au pays et qui manquent. D'abord, la première, c'est pour cela, je réponds de la manière la plus académique, en fait, de la recherche, de la réflexion sur l'avenir de ce pays et de la manière dont il est fait. La première chose qu'il faut résoudre, c'est la question de la responsabilité. Au Congo, le pouvoir n'est pas lié à la responsabilité. On a vu, par exemple, je donne pour illustrer, dans le programme de 100 jours, on a eu des gens capables de tout, mais responsables de rien. Vous voyez ce que je veux dire? Le président de la République est couvert. Il ne peut pas répondre directement, il ne peut pas sauter pour une question dont, par exemple, aux États-Unis, on peut avoir l'impeachment. Le président américain ne peut pas nommer un gouverneur, un ministre comme ça, même un ministre de l'économie. Il est soumis à une pression moins sévère de sorte que on s'assure qu'on a la meilleure personne possible. Mais on a vu des gens nous nommer des gens incompétents, moins que l'incompétent, enfin, pire que l'incompétence ici chez nous, et ils ont vadouillé.
Même si simples juges qui contestent les décisions du président.
Il y a des juges qui vous disent, déclarent une constitution, une procédure, mais parce qu'ils sont la séparation de pouvoir. Elle est pensée de façon complexe, de sorte que personne. Rawlings disait du Ghana, je veux laisser le Ghana de sorte, même si les diables devenaient président du Ghana, qu'ils soient incapables de conduire le Ghana mal, dans le chaos. Parce qu'il y a une organisation politique qui fait de sorte que il a le pouvoir d'agir et de mener la politique, mais il en répond directement de sorte qu'en moins de l'heure, il peut sauter. Donc, mais si nous, c'est pas la même chose.
Il faut changer pratiquement l'architecture institutionnelle.
Logique ontologique, des sortes de choses, tout à fait. Séparer le pouvoir, garantir la responsabilité. Responsabilité, c'est qui répond d'eux.
Je vous rappelle que
le changement de la constitution.
Oui, tous, pas de la constitution, de constitution. Je souligne
la
nuance, on peut y revenir un jour après. Parce que, regardez, je dis bien, même si vous donnez à un premier ministre le plus intelligent possible cette gouvernance, à moins qu'il fasse comme Kabila, et je souligne que j'ai apprécié Kabila sur cette question là-bas, au-delà de tout le reste. Kabila, quand il prend le pouvoir, il donne le premier ministre, la primature à ma tante Ampogno, il lui laisse la clé de la gouvernance. Il laisse la clé. Mais ça ne devait pas dépendre de la volonté du président, si vous voyez ce que je veux dire. Ça devait être suffisamment protégé et garanti.
Et verrouillé.
Et verrouillé. C'est pas que moi je te laisse, alors là on peut avoir un premier ministre qui est à la fois ministre de finances et qui est à la fois ministre de l'économie. Vous voyez ce que est premier ministre. Alors là il se donne le moyen, il crée un... il se donne des gens intelligents qui l'entourent et il agit. Et là, mais si vous avez un président comme Félix qui vous met là comme un figurant, et puis tous les ministères du gouvernement sont dupliqués au niveau de la présidence par une ribambelle de conseillers qui, à la fin, on sait. Alors on a quoi? La présidence agit, mais c'est le gouvernement qui répond de la politique. Voilà. Et tout ça facilité par une organisation politique qui ne marche pas. Et ça retentit aussi au niveau des provinces où on a la constitution prévoit la retenue à la source. Mais on sait ce qu'on en fait, alors qu'un pays continent comme celui-ci, on sait qu'on n'ira nulle part si la décentralisation n'est pas effective au fond. Et ainsi de suite. Donc au fond, tout ça ne changera pas s'il n'y a pas cette révolution de conception de pouvoir, où il nous faut nécessairement une nouvelle conférence nationale souveraine pour repenser tout ça. Mais malheureusement, les gens préfèrent se entretuer par des couteaux au lieu de réfléchir.
Merci beaucoup pour cette... contribution à ce stade de nos échanges, tout en rappelant que l'Assemblée nationale s'apprête à examiner une motion de défiance visant le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Donc, au même moment, il est sur une chaise éjectable. Au même moment, il joue aux sapeurs-pompiers au sud de Kivu, nous le disons. Le VPM en charge de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières, Jacquemin Chabani, Louko est visé par une motion. Selon le quotidien, la référence plus, la conférence de président de la Chambre basse a entériné l'inscription de cette question à l'ordre du jour de la plénière de demain lundi, au terme des discussions internes particulièrement tendues. D'après des sources parlementaires citées par ce quotidien, cette décision traduit la volonté de laisser la plénière trancher malgré des divergences persistantes entre les différentes forces politiques. Il est visé pour la question d'incompétence, donc il lui est reproché, selon l'initiateur de la motion, Lady Langotikala, qui est membre de l'Union Sacrée des Nations. Le député reproche au VPM plusieurs manquements dans la gestion de la sécurité publique. Il accuse notamment d'incompétence face à l'insécurité persistante à travers le pays, d'entrave au contrôle parlementaire, d'atteinte à la séparation des pouvoirs et d'abus d'autorité. Nous observons une pause avant de revenir pour parler du processus de paix, le processus de Doha qui a été délocalisé en Suisse. Et les conclusions du 9e round ont été publiées le week-end dernier. Analyse, évaluation, où est-ce que nous en sommes, où est-ce que nous allons avec les invités dans peu de temps. Exactement 8h03 à Bukavu, sud Kivu. Nous vous remercions pour l'attention soutenue en vous souhaitant donc un excellent dimanche.
Nous gardons les mêmes invités, Mick Mutsiki, président du cadre de concertation dans ces civils du Sud Kivu, expert en gouvernance sécuritaire, Baraka Joseph de l'Institut, Patrice Emery Lumumba et Dani Bashige de l'AFC M23. Nous accueillons Emmanuel Benguea, qui est co-modérateur du collectif des organisations de la société civile du Sud Kivu pour la paix. Emmanuel, bonjour et bienvenue.
Bonjour Monsieur Expedi Kalou, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Mendeléo, bonjour à tous les co-débatteurs avec qui nous sommes dans ce studio.
Communiqué conjoint entre les représentants du gouvernement de la RDC, de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars à FCM 23 concernant le protocole relatif à l'accès humanitaire et à la protection judiciaire, l'opérationnalisation du mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu ainsi que la libération de prisonniers. C'est donc un communiqué conjoint qui a été signé le 18 avril par toutes les parties. Je vous lis en substance le communiqué. La déclaration suivante est publiée par le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 mars, AFC M23, ainsi que l'État du Qatar, les États-Unis d'Amérique, la République togolaise en tant que médiateur de l'Union africaine, la Commission de l'Union africaine et la Suisse à l'issue des réunions qui se sont tenues du 13 au 17 avril à Montreux en Suisse concernant la mise en œuvre du cadre de Doha pour un accord de paix global. Début du texte de la déclaration. Du 13 au 17 avril 2026, des représentants du gouvernement de la RDC et de l'AFC M23, ainsi que les États-Unis d'Amérique, l'État du Qatar, la République togolaise en tant que médiateur de l'Union africaine, la Commission de l'Union africaine et la Suisse se sont réunis à Montreux en Suisse pour discuter du protocole sur l'accès humanitaire et la protection judiciaire conformément aux dispositions du cadre de Doha pour un accord de paix global entre le gouvernement de la RDC et l'AFC M23 signé à Doha le 15 novembre 2025. Le gouvernement de la RDC et l'AFC M23, qui sont les deux parties, ont convenu de l'importance cruciale d'assurer une aide humanitaire vitale à la population de l'Est de la RDC et ont réalisé des progrès substantiels en vue de la conclusion d'un protocole sur l'accès humanitaire et la protection judiciaire. Au cours des négociations, les parties ont convenu de respecter l'ensemble des obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire, du droit international des droits de l'homme et du droit international des réfugiés selon qui sont applicables, et de se référer aux principes fondamentaux de la constitution de la RDC. Les parties ont également convenu de s'abstenir de toute attaque, destruction, enlèvement ou mise hors d'usage des biens indispensables à la survie de la population civile, y compris les denrées alimentaires, les zones agricoles destinées à la production des denrées alimentaires, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d'eau potable et les ouvrages d'irrigation, les infrastructures et la fourniture des services de télécommunications et d'énergie ainsi que les installations hospitalières et scolaires. Les parties ont reconnu que l'aide humanitaire comprend sans s'y limiter les activités et services liés à la fourniture de nourriture, de nutrition, de soins de santé, d'eau, d'assainissement et d'hygiène, d'abri et à la garantie que la protection des civils reste primordiale pendant la conduite des hostilités. Cela inclut les activités de protection, y inclut celles visant à prévenir et à répondre à la violence, à l'exploitation et aux abus à l'encontre des civils, y compris des femmes et des enfants, et à promouvoir le respect du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme. Les parties ont convenu de respecter et de protéger les acteurs humanitaires, y compris les intervenants locaux et les bénéficiaires, ainsi que les objets utilisés pour les opérations de secours humanitaires afin de leur permettre d'opérer en toute sécurité. Les parties ont convenu chacune en ce qui la concerne de tout mettre en œuvre pour empêcher que l'aide humanitaire ne soit ni détournée ni pillée et s'engage en outre à ne pas indûment influencer la sélection des prestataires et des bénéficiaires. Les parties ont convenu de faciliter un accès humanitaire rapide, sans entrave, sûr et durable. Les parties ont convenu de respecter, protéger et faciliter la fourniture continue des services essentiels à la population civile. Nous vous dispensons de la longue littérature. En plus de ces engagements, les parties en collaboration avec la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et IRGL ont signé un protocole d'accord qui met en œuvre les mécanismes conjoints de vérification élargie
plus l'opérationnalisation du mécanisme conjoint de vérification élargie plus permet aux mécanismes de surveillance et de vérification du cessez-le-feu établi dans le cadre d'accord Doha, l'accord cadre de Doha, de commencer à mener des activités de surveillance, de suivi et de vérification ainsi qu'à faire rapport sur la mise en œuvre du cessez-le-feu permanent entre les parties. Et les partis et la CIRGEL ont exprimé leur volonté de lancer dans un délai d'une semaine les premières missions de vérification du cessez-le-feu rendues possibles grâce au soutien logistique de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation RDC MONUSCO. Les partis ont également convenu de procéder dans un délai de 10 jours à la libération des prisonniers conformément au mécanisme de libération des détenus signé le 14 septembre 2025 afin de continuer à renforcer la confiance. Les partis remercient le CICR pour la fourniture des listes des détenus conformément aux procédures établies. Les parties ont convenu de maintenir la dynamique du processus de paix et à continuer de s'appuyer sur les progrès réalisés concernant le protocole sur l'accès humanitaire et la protection judiciaire tout en accélérant les négociations sur les protocoles restants, notamment en soumettant aux facilitateurs des propositions des plans concrets pour les prochaines étapes. Le gouvernement de la RDC et la FSAM 23 expriment leur gratitude à l'État du Qatar, aux États-Unis, à la Suisse, à la République togolaise, à la Commission de l'Union africaine, ainsi qu'aux Nations unies, notamment par l'intermédiaire de la MONUSCO, pour leur soutien indéfectible à la promotion de la paix et la stabilité dans l'Est de la RDC et dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. Fin du texte de la déclaration. Emmanuel Benguea, quelle analyse faites-vous, bien évidemment, de la conclusion de ce 9e round des discussions entre l'AFCM 23 et bien évidemment le gouvernement de Kinshasa?
Merci beaucoup, cher Expedi Kalou, pour nous avoir accordé la parole. Merci, s'il faut analyser de cette rencontre et qui a eu lieu en date du 13 jusqu'au 17 en Suisse. Nous pouvons penser que jusqu'à ce niveau-là, l'AFCM 23 peut maintenant se frotter les mains. Donc on peut dire que c'est l'avancée significative et diplomatique de l'AFCM 23.
Et donc à ce niveau-là, c'est une réussite de l'AFCM 23.
C'est une réussite parce que un mouvement qui était largement contesté par le gouvernement congolais et par plusieurs structures informelles proches du gouvernement actuel et qu'ils arrivent maintenant à conclure des accords pareils. Donc il y a déjà une réussite de la part de ce mouvement. Et du côté du gouvernement congolais, nous pouvons penser que c'est pour Kinshasa c'est un test de crédibilité, parce que si je peux parler d'un test de crédibilité, c'est parce que l'AFCM 23 ne cesse d'accuser, à tort ou à raison, le gouvernement de Kinshasa de ne pas respecter certains accords qui sont signés, que ce soit ici en Afrique, que ce soit à Washington, parce que ces initiatives n'ont pas débuté aujourd'hui. Et nous pouvons penser qu'à ce niveau-là, c'est aussi un test de crédibilité de Kinshasa. Mais s'il faut parler de la diplomatie, on voit réellement que c'est une réussite de la part de l'AFCM 23. Maintenant là, les conclusions relatives à cet accord, et ça peut déjà nous témoigner aussi qu'il y a déjà une volonté entre les belligérants, c'est-à-dire on voit déjà Kinshasa et l'AFCM 23, on voit cette volonté-là de soulager cette population. Parce que lorsque les uns et les autres acceptent qu'ils vont respecter les accords, c'est-à-dire respecter les cessez-le-feu, mais aussi chercher à ouvrir le couloir humanitaire qu'on cesse de crier à travers ce micro de la radio Mandeleo, toujours fermé jusqu'à aujourd'hui depuis plus d'une année, mais aussi commencer à laisser la communauté, parce qu'il y a des endroits jusqu'à aujourd'hui, bien qu'il y a une année, il y a des endroits où la guerre a touché jusqu'à aujourd'hui, les enfants n'ont jamais étudié. Et là, moi, je me pose la question, si ces plats, qu'est-ce qu'ils ont analysé, parce qu'on l'on se dit...
Dans le communiqué, ils se sont convenus de ne pas attaquer, par exemple, les infrastructures scolaires, les infrastructures sanitaires, les hôpitaux et consorts. Cela a été clairement spécifié dans le communiqué conjoint, même si la réalité sur le terrain est tout autre.
Voilà. Donc, et c'est ce qui nous montre déjà ce qui nous montre déjà que s'il faut analyser à ce niveau-là, ça montre que jusque-là, ce n'est pas encore la paix. Et ce n'est pas encore la paix. On peut déjà dire que c'est une phase de gestion de guerre. Donc, c'est là, ils sont en train de passer à des actions, mais ça nous montre jusque-là aussi que la guerre n'a pas encore pris fin. Et parce que si vous regardez très bien, bien que ces assises ne cessent d'être organisées ici et là, mais il y a toujours les communautés qui sont touchées, parce que lorsqu'on parle les inconvénients de ce qui a été posé au niveau des communautés, et ce qui se passe à l'intérieur de la communauté, notamment les divisions, comme on parle souvent des discours de haine, ça montre toujours que ce qui se passe, c'est juste une façon de régler, de faire une gestion de guerre, d'atténuer les tensions ici et là. Mais nous pensons qu'à l'interne, surtout dans les zones où il y a les zones qui étaient touchées, il y a toujours des problèmes. Merci et c'est beaucoup. Pourquoi nous avons pensé que ça ne soit pas seulement de signatures comme on l'a toujours remarqué. Nous voudrions normalement qu'il y ait normalement le respect des principes des uns et des autres. Si vous avez pris l'engagement que vous allez respecter, par exemple, le cessez-le-feu, et que vous le respectez, mais qu'on ne prend pas après que il y a dans telle zone, on a encore renforcé, il y a des militaires, il y a encore des barrières, parce qu'on peut parler que il y a déjà une gestion là des guerres, mais aussi longtemps il y a la présence des barrières érigées ici et là, ça va toujours décourager la population, ça va encore créer la paix dans les chefs de la population.
Merci Emmanuel, on a bien vous entendre, c'est-à-dire qu'il y a avancé, je synthétise votre propos à travers ces quelques mots, vous l'avez dit, c'est une réussite, pour vous c'est une réussite de l'AFSAM 23. Oui. Vous avez également constaté que les deux parties visiblement sont engagées à échanger, à évoluer sur le terrain de la recherche d'une solution, même si sur le terrain la situation n'a pas encore changé, les combats sont toujours décriés par-ci par-là et les barrières sont érigées, que ce soit dans la plaine de la Rousie ou dans d'autres.
Oui, mais aussi on a signalé que Kinshasa cette fois-ci reconnaît déjà l'AFCM 23 comme son interlocuteur
direct,
direct ou indirect.
Voilà,
parce que dans l'État ce n'était pas le cas, mais si déjà aujourd'hui les deux parties se rencontrent et échangent, on comprend qu'ils se reconnaissent déjà mutuellement comme étant des partenaires et des interlocuteurs.
Merci beaucoup, merci ouais. beaucoup. Joseph Baraka, à ce stade, au terme de ce 9e round, peut-on parler d'avancée, de recul ou de statu quo?
Bon, alors, c'est une avancée, c'est une avancée. Elle n'est pas une avancée majeure, mais c'est une avancée. Mais je ne situe pas l'avancée par rapport au contenu du communiqué qui a été fait. Mais je situe l'avancée au niveau de la qualité du modérateur qui a tenu à avoir lors de ses assises. Nous soulignons ici que cette fois, ce n'est pas les facilitateurs indirects qui ont facilité les discussions, mais Boulos lui-même. Et ça, c'est très important,
les conseillers africains
des États-Unis de Trump, parce que, en fait, comme nous l'avons souvent dit ou rappelé ici, c'est que pour que des négociations aboutissent, il faut, je crois que même Mick l'a déjà dit aussi plusieurs fois, pour que des négociations aboutissent, il faut que celui qui vous le facilite soit capable de peser pour les uns ou l'autre. Et on a vu qu'à Luanda, ça n'a pas marché. À Nairobi, ça n'a pas marché. Même l'Union africaine s'est pris dans le rouleau. S'est pris le pied dans le rouleau. Mais cette fois, on a quelqu'un qui peut imposer un agenda et mettre la pression aux deux parties et aboutir à quelque chose. Et je crois que c'est dit de façon subliminale dans le communiqué, parce que si on voulait aller... On comprend tous que pour vider des questions comme celle de... Que deviennent les
si, même si les RDF, les forces rwandaises quittent la partie qu'elle occupe ou qu'elle co-occupe avec les soldats du M23, ça s'est établi, c'est reconnu par le président Kagame lui-même, ainsi de suite. Même s'ils quittent maintenant, que deviennent la partie qui se dit congolaise du M23, ces militaires là-bas, ils deviennent quoi? Cette question, c'est une question de fond. On parlera des vraies avancées lorsque des questions comme ça seront traitées. Que deviennent les... On a par exemple eu un communiqué de Steve Wemby, qui est un communicateur, on le voit tous affiliés en 23, qui a parlé de la question des levées,
qui est journaliste,
indépendant, mais bon, on voit tous ces
choses. C'est pas une odeur de sainteté avec.
C'est pas question d'odeur de sainteté avec le gouvernement, on sait voir par nous-mêmes. Donc la question que je dis, c'est qu'il a parlé des levées de mesures de poursuite judiciaire contre des cas. On l'a vu, on sait que Kishishe a eu lieu, on peut ou ne pas le contester, mais on le sait qu'il a eu lieu. Et donc on sait par exemple qu'il y a, à un moment, il faut que quelqu'un porte la responsabilité de tout ça. Et donc ça implique des poursuites judiciaires que Kinshasa, j'ai vu, ils ont fait un livre blanc de certaines, à un moment, on s'en souvient, de certains crimes qui ont été commis, et donc ils tentaient d'ouvrir une procédure internationale. Donc qui porte la responsabilité de ça? Et donc à un certain moment aussi, il faut des poursuites. Alors les dignitaires de l'AFC-M23, militaires et politiques, demandent une levée, un abandon, voilà. Bref, une amnistie, il faut que voilà, des conditions comme ça soient faites. Et donc, lorsqu'on aura une réponse sur une telle question, on saura qu'on est en train d'avancer de façon substantielle, parce que sans cela, chacun va s'enfermer dans sa logique et aller jusqu'au bout. Ce sera toujours à la défaveur de la population. Il y a aussi la question indirecte, on ne le soulignera pas, mais je sais voir qu'il y a une question politique AFC et une question militaire et je ne sais pas quoi, M23. Et la question politique AFC, elle est peut-être portée par ceux qui, comme le souligné Mick, sur la constitution, sur les calendriers électoraux, sur les responsabilités dans l'ordre de la Cour constitutionnelle. On va avec qui, dans quel cadre, dans quelle assurance garantie de sécurité pour tous. Et tout cela, je sais que ça devra aboutir soit sur... On conclut ce dialogue là-bas, ces processus là-bas, et on dit ensuite qu'il y aura un dialogue national, ou comme on est en train de dire que ce sera un accord global. Je ne sais pas si peut-être d'autres questions politiques seraient résumées dans tout ça. Et peut-être c'est pour cela que le secrétaire général, le prof Mbata, a fait d'abord un communiqué qui dit « Je veux des recommandations sur le changement de la Constitution ». En plus, il s'est révisé par la suite pour dire « C'était pas une position officielle ». Qui a mis la pression derrière? Qui a mis la pression derrière?
Mais Tshilumbay a dit la sortie.
Oui.
Médiatique de Tshilumbay sur RFI, ça remet encore en selle le même débat.
Oui, les débats, ils restent. On sait dans quel brouillard évolue la politique. Mais quand c'est officiel, ça veut dire l'union sacrée, se prononce officiellement, et qu'elle se ravise, ou se ravise après, c'est qu'il y a une dynamique, une pression peut-être derrière. Donc j'atterris et je dis, c'est une avancée de petits pas, mais
niveau,
qui pose les cadres.
À quel niveau vous situez ce processus en termes d'avancée? Quels sont les éléments qui fondent votre position selon laquelle il y a avancé?
J'ai déjà dit que je les situe à deux niveaux. D'abord, la qualité du médiateur. Les États-Unis, en prenant eux-mêmes le relais, puisqu'ils ont besoin que les choses avancent pour que leurs exploitations et tout ça se passe correctement, ça peut avancer pour le meilleur ou pour le pire.
Dans
de deux camps.
Contenu,
des deux
où
camps.
Est-ce qu'on situe maintenant l'avancée?
On les situe au niveau vers la dernière phrase où dit toutes les parties on demande à toutes les parties d'aller travailler sur les questions et d'envoyer à la modération leurs recommandations pour le prochain round. Et je situe
les
questions de fond, les questions qui vraiment font. C'est que, par exemple, l'AMC-M23 n'acceptera pas ils demandent l'ouverture de banques, les autres demandent les aéroports. Mais tout ça, nous on est pris en otage, que mon aîné Danny Bashig il accepte ou pas, tous ces marchandages là-bas, aucun n'acceptera l'autre tant qu'il n'est pas assuré sur ces questions de fond, c'est qu'il devient.
Et donc, on considère que rouvrir les banques,
sacraliser certaines choses
de l'AFC-M23.
Tout à fait.
Et l'AFC-M23 considère que rouvrir l'aéroport,
c'est perdre la mesure des pressions. C'est perdre la mesure des pressions sur le gouvernement congolais, sur le gouvernement de Kinshasa. Et je considère ou j'espère qu'il y aura des avancées, on le saura dans les quelques mois qui suivent, et ce sera sur des telles questions de fond. Alors, il restera maintenant à la population de savoir s'il est prêt à payer, une fois encore, à concéder certaines choses. Là, je sais que le gouvernement, il a sa manière d'aborder les questions, et je pense que dans les deux prochains rounds, nous ferons alors des vraies avancées, s'il y aura avancées. Merci beaucoup.
Mick Moutiki, vous également, à ce niveau, quelle évaluation faire de l'évolution du processus? Est-ce que vous pensez qu'il y a des améliorations?
C'est le papier, oui. Mais j'ai peur. J'ai peur parce que tous ces papiers signés à Doha et à Lausanne, dans la partie préambulaire, on fait foi aux instruments juridiques internationaux, dont la déclaration universelle des droits humains, la déclaration des droits de l'homme et du peuple, les droits internationaux humanitaires,
etc. Point en soi des droits de l'homme.
Mais vous savez, enfin, on fait foi à la constitution congolaise. Pas si vous lisez ça avec moi.
Voilà.
Or, pour sauver sa tête, après 2028, vous avez lu le rapport de la CENI. C'est comme si la CENI nous informait que, vu sa situation actuelle, je l'avais déjà dit ici, il n'y aura pas élection. Ce qui signifie que on va aller dans la dynamique du changement constitutionnel, de manière à rester au pouvoir, et Chilumba, il a dit à RFI, jusqu'à la remise reprise qui sera faite après les élections, même après 30 ans. Ce qui signifie pour moi quoi? Ce qui signifie que sans se mettre d'accord, d'abord qu'on ne touchera pas à la Constitution, tous ces accords qu'on est en train de signer risque de tomber en désuétude. Ça veut dire le consensus national qui tient et l'accord cadre du 11, même la signature de mécanisme de libération des prisonniers qui est le premier protocole, les mécanismes de surveillance de cessez-le-feu, tous ces 8 protocoles ont été signés sur base qu'il existe une constitution. C'est pourquoi nous, dans le cadre de la campagne citoyenne pour la paix, nous mettons d'abord les actions de paix en sourdine pour amorcer une série d'activités visant à stopper les velléités de changement constitutionnel, parce que si il y a changement constitutionnel, ça veut dire que tous les consensus est rompu. Il est question de logique, tout simplement. Maintenant, rentrons dans le contenu. Nous disons quoi? Ce qu'on fait ici, on énonce que des principes. Mais je me demande, dans la mise en œuvre, comment ça va se passer s'il n'y a pas une dynamique d'inclusivité dans ces dialogues. Oui, sur le niveau sécuritaire, sur l'agenda sécuritaire, c'est bon. Que c'est l'SM23 et la partie congolaise qui tient la main. Mais dès que vous arrivez dans la dynamique purement humanitaire, comment allez-vous faire sans les acteurs sociaux? Parce que selon les protocoles de Paris et les accords de Banjul et les accords de Bénin, sur l'efficacité de l'aide, surtout au moment de l'urgence où la gouvernance étatique est en branle, on ne peut que l'aide humanitaire passera par les organisations internationales via les organisations locales pour entendre le bénéficiaire. Expédie, dis-moi, si on n'associe pas à ce stade les acteurs sociaux, les églises, on n'associe pas les chefs coutumiers, on ne nous associe pas, nous, la société civile,
Comment va se mettre en selle la mise en œuvre de l'aide humanitaire sans nous?
Impossible.
C'est impossible. C'est pourquoi l'aspect de l'inclusivité commence à crier pour qu'il y ait une certaine faisabilité de ce qui se passe. Pour les tensions de nos auditeurs, hein, les mécanismes, les accords humanitaires et protection judiciaire, c'est le troisième protocole sur le 8 protocoles qui compose l'accord cadre qui a été signé à Doha le 15 novembre 2021.
Et on précise que ce protocole n'a pas encore été signé.
On précise. Ils ont juste planté les décors par rapport aux principes, aux acteurs, au calendrier, mais l'accord n'a jamais été signé. Il faut d'abord vider les 8 protocoles. Parce que après la signature des mesures de confiance qu'ils ont appelé accord de principe, mais que nous, à la société civile, que nous avons appelé mesures de confiance en juin de l'an dernier, il y a déjà certains protocoles qui ont surgi, notamment les mécanismes de libération des prisonniers et les mécanismes de surveillance et de vérification de cessez-le-feu, tous signés déjà au 14 septembre 2025. Mais il y a d'autres protocoles, vous permettez que je les dise pour que nos auditeurs aient une idée globale de là où nous sommes en train d'aller. Il reste, après ce troisième protocole qui a été signé, donc les deux autres que je viens de citer ont déjà été signés, les 14 octobre 2025, mais il reste un protocole sur la restauration de l'autorité de l'État, les réformes et gouvernance participative. Comment vous allez penser aux réformes et gouvernance participative sans nous les experts en gouvernance quand même, sans la société civile, parce que c'est participatif.
C'est une partie prenante, pas participative.
Mais pourquoi cette exclusivité? Deuxièmement, il y aura l'arrangement sécuritaire intérimaire et DDR, une sorte de transition des forces. Comment Bata Tchangana, comment Bata Pakula Bamoya, comment on va démobiliser, on va désarmer, on va réintégrer où? Dans la communauté, dans la société civile. Comment on fait pour penser toutes ces choses-là sans les autres parties prenantes? Heureusement que nous n'en sommes que au niveau des principes. La question d'identité, citoyenneté, sans les organisations citoyennes. La question de l'identité, sans les forces sociales. Qui vous dira que nous confirmons que Mick Mutiki, c'est un Moulega, mais il vient du territoire de Mwenga, qu'il est de la chefferie de Wamuzimu, et qu'il est du clan de Bamulinda et des sous-clans de Babungwe, et que chez lui c'est Akalo les deux, et entre les deux mots Muliwa et Lukanga. Qui dira ça? Ce sont les forces sociales, ce sont les acteurs sociaux,
les chefs coutumiers
qui viendront dire que nous connaissons cette affaire ici. Alors, pour dire que je continue. Donc, la gestion de la réinstallation des réfugiés et personnes déplacées. Saï Manyumba Zaba réfugiés, si moi zi Shengia Mubatu. Comment on fera pour que Kutoshabe, parce qu'il y a aussi des réfugiés qui vivent dans les maisons des réfugiés. Oui, non, il y a des déplacés qui vivent dans les maisons des réfugiés qui doivent rentrer. La question des déplacés et réfugiés, elle est devenue des temples. Parce qu'il y a aussi des réfugiés 5 Pro Max. Ça veut dire il a quitté Masisi pour aller à Goma. De Goma, il s'est retrouvé dans les Calais. Dans les Calais, il s'est retrouvé dans les Cabarets. Dans les Cabarets, il s'est retrouvé à Bukavu. Et aujourd'hui, peut-être, il est à Uvira. Il y a des déplacés comme ça. Comment on gère toutes ces questions? Comment on gère toute cette traçabilité sans associer d'autres parties prenantes? Relancer l'économie et services sociaux. Services sociaux. Sans les acteurs sociaux. Il faut alors la vérité et la réconciliation, ce que nous appelons la justice transitionnelle. Comment on peut mettre tout ça en branle, en action, sans qu'il y ait d'autres parties prenantes qui viennent? C'est pourquoi nous disons que, à ce stade, nous sommes juste en train de signer un certain nombre de papiers qui créent l'ossature de ce qui pourrait être les vraies négociations. Mais je pense que tout ceci ne pourra se mettre en œuvre qu'avec, à travers un dialogue global et inclusif.
Merci beaucoup. Qui va associer pratiquement tous les acteurs?
Tous les acteurs.
Vous venez de le dire. Oui. Danny Bashige, vous êtes cadre de l'AFSAM 23. Dans ce communiqué, il était prévu qu'après une semaine, l'on démarre déjà les premières missions d'observation du cessez-le-feu. Mais une semaine après, rien de ce type-là n'a été fait. Il était prévu également une libération des prisonniers dans un délai de 10 jours. Nous sommes, je pense, encore dans la marge. Est-ce que vous êtes informé sur la faisabilité de toutes ces activités-là? Nous avons appris que les deux tendances, selon certaines sources, bien évidemment, pas trop officielles, mais indiscrètes, le gouvernement de la RDC et l'AFSAM 23 sont opposés sur les lieux où cette libération pourrait se faire. Le gouvernement de la RDC proposerait que ça se fasse à Beni, mais l'AFSAM 23 propose plutôt Kampala en Ouganda.
Bien, merci beaucoup.
Parce que vous avez signé, vous êtes censé nous tenir informés de la suite de ce qui a été dit dans le communiqué.
Oui, nous avons signé parce que nous avons toujours été de bonne foi. Et ça, vous savez. Et on l'éprouve. Mais le problème, ça vient toujours du côté du gouvernement congolais. Je ne sais pas si vous l'observez comme nous. Parce que on s'entend sur un bon nombre de choses, mais il ne peut pas se passer 48 heures sans apprendre qu'encore une fois, il y a eu des bombardements. Parce que après la signature de ces accords ici, le gouvernement a déjà procédé à des bombardements encore une fois. Et c'est là que nous n'arrivons pas à les comprendre. Chilumbai, de l'IDPS, vous avez suivi sa sortie médiatique. Ce sont ces gens qui sont des têtes pensantes de l'IDPS. Ce sont eux qui reflètent, en fait, qui donnent les idées. Ce sont eux qui parlent ce que pense Chilumbai. Si vous ne le savez pas, bon, il parle encore de la modification de la constitution, il parle de la mission et non le mandat, que M. Chilombo a une mission et non un mandat. Il dit que bon, on pourra passer à la remise et reprise après les élections, mais dans l'entretemps, il dit que ces élections-là
n'auront pas lieu
en 2028. Vous comprenez? Avec tout ce qu'il a dit, on sait comprendre qu'on n'a rien signé. On sait comprendre qu'on n'a rien signé. Et c'est là que moi, je félicite François Mutabazi, qui est le cordeau de la mobilisation et recrutement, accompagné par le gouverneur Patrick Boussoubangou, qui sont engagés dans les recrutements des militaires. Et nous le faisons, ce n'est pas un secret. Nous le faisons parce que notre interlocuteur n'est pas sérieux. Alors, au lieu qu'il arrive à un moment de nous surprendre, nous devons nous préparer en conséquence. Docteur Baraka, avant de sortir, il venait de souligner un élément. Que deviendront les militaires du M23? Et il y a d'autres questions politiques qui restent en suspense, qui ne sont pas encore touchées. Même si l'ossature est présentée, des négociations, mais on sent qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Alors, nous, on s'est dit, on signe, on accepte, on fait preuve de bonne volonté. Mais dans l'entretemps, nous prenons les peuples congolais à témoin. La preuve est c'est cette sortie médiatique de Chilumbai. Et nous sommes des politiques, on ne doit pas penser que Ali Halandjika, Ali Lota, Aonini, non. Il a dit des choses qui sont réfléchies, qui sont pensées,
et il l'a prononcé comme acteur politique, comme scientifique, comme homme du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous, on ne doit pas croiser les bras. Bon, nous avons déjà un effectif vraiment très bien gonflé des militaires. Nous avons un effectif, on est au-delà de 35 000 hommes aujourd'hui. Mais même avec le recrutement que nous faisons, je ne vais pas vous dire les nombres par mois. On fait quel score seulement pour les comptes du Sud Kivu. Mais je vous dis, c'est au-delà d'un bataillon que nous faisons par mois. Sans parler des massifs, sans parler des routes, sans parler
pour
des...
dire que vous, tout en discutant, en échangeant,
on se prépare
en restant parce qu'on sur sait... la table des négociations, vous planifiez aussi la guerre.
On se prépare parce qu'on sait que l'interlocuteur n'est pas sérieux. Et les preuves sont là. Je viens de vous dire, parce que vous-même, vous savez que Tshilombai, il a fait une sortie médiatique. Et il n'y a pas que lui. Même tout ce que nous vivons au Congo, ça prouve qu'il n'y a pas... preuve de bonne volonté du côté de Tshilombo. Vous voulez que nous on se comporte comme... Heureusement, il y a les négociateurs qui pèsent sur nous tous, mais aussi il est en train de voir que du côté de Tshilombo ça ne va pas. Ah papa, toi, dit que ils ne sont pas sérieux. Ils ne savent rien respecter.
Est-ce que vous...
quand on leur demande...
est-ce que vous, à votre niveau, vous respectez ce qui est convenu dans l'accord ou dans les accords?
Oui. Parce que quand on dit, c'est le fait. Nous, on s'arrête. Quand on nous demande de nous retirer, on se retire. Mais en contrepartie, qu'est-ce que nous vivons? Tshilombo y amène ses hommes. Le cas d'Ouvira est encore là. Le cas de Massissi est encore là. Le cas de Walikale est encore là. C'est connu. Entre nous deux qui ne respectent pas les accords. N'est-ce pas, Tshilombo et ses hommes? C'est clair. Vous pouvez ou accepter ou refuser. Mais c'est ça, la vérité.
Voilà. Merci beaucoup, Dany. Il faut préciser que... bon, peut-être ça peut paraître anodin, mais l'arrivée de James Swan dans la partie nord de la province du Nord Kivu, et le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, chef de la MONUSCO, est arrivé vendredi à Goma. Cette visite constitue la troisième étape de sa mission mixte. Cela ne peut pas être en lien avec ce qui a été signé, donc le fait de lancer les premières opérations de vérification du cessez-le-feu dans une période d'une semaine avec le concours de la MONUSCO. Et la semaine d'après, on sent que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies arrive à Goma.
Oui, là, ça, c'est ce que j'appelle maintenant une avancée. De voir que, au niveau des Nations Unies, ça commence à bouger. Parce qu'on était dans une posture où les États-Unis pensaient que, en tant que puissance, ayant déjà leur deal, ils vont arriver à tout gérer. Mais aujourd'hui, la nécessité de mettre, comme on dit, que soit le Kupatia qui pawambele, Jumli Amado la Ama Nations Unies, ça rassure un peu. Mais là, il va y avoir, c'est encore un grand chemin. Pourquoi? Parce que vous savez que la MONUSCO était dans un mécanisme, il avait déjà activé le mécanisme de sortie. Il y a déjà une résolution des Nations Unies qui demande à la MONUSCO de quitter progressivement. Et toute la machine était déjà mise en selle pour que la MONUSCO libère progressivement. Maintenant, pour que, heureusement qu'il restait encore à un peu à Goma, à Ituri, et
au sud qui vous était déjà
au sud qui vous là c'est fini. Pour que nous voyons la MONUSCO ici, il faut une autre résolution des Nations Unies et un autre mandat des Nations Unies spécifiquement en lien avec le maintien de la paix dans le cadre spécifique de vérification du cessez-le-feu. On ne sait pas encore. C'est ce mandat qui déterminera si ça sera une mission de vérification du cessez-le-feu ou si ça sera une mission d'imposition du cessez-le-feu. Parce que dans le régime du maintien de paix, il y a ces deux approches. Soit on amène une mission
d'imposition de la paix. Ça veut dire que c'est une force costaude qui entre le belligérant, celui qui veut avancer s'attire et les Nations Unies s'imposent. Mais je vais vous dire que il y a peu de chances qu'on en arrive là. Pourquoi? Parce que déjà avant que Goma ne tombe, il y avait des remue-ménages au niveau de l'opinion internationale par rapport à la manière dont les entités seraient en train de tomber au nord Kivu, alors qu'il y a la force de la MONUSCO. Le secrétaire général des Nations Unies, à l'époque, avant que Goma ne tombe, il a dit que le M23 avait un arsenal militaire plus costaud que celui du M23. Alors, prenez la position actuelle où Goma est déjà tombé, où il ne cesse de recruter, où Bukavu est déjà tombé, où Uvira était déjà tombé. Ça veut dire que aujourd'hui, penser à une force d'imposition de la paix, ça risque pas d'être fait. On penche vers une force d'observation. Et c'est pourquoi, dans le MOU, qui a été signé le 13, je pense, ils ont dit rien à faire, il faut mettre
les
officiels du M23 dans la mission d'observation du cessez-le-feu. Signé avec des acteurs internationaux. Cela fait tomber l'argument que plus jamais les M23 ne sauraient être appelés une force terroriste. Parce qu'elle est crédibilisée par un maillage international d'acteurs importants, en commençant par les États-Unis, les Nations Unies, l'Union africaine, et voilà. Donc, c'est un peu comme mon frère Emmanuel Bengué a dit, il y a une sorte, la crédibilisation du M23 est allée crescendo. Oh, oui, crescendo, ça a monté. Autre élément important à prendre en compte, c'est que le processus, après la résolution, nous aurons besoin de la contribution. Des pays contributeurs. Contributeurs de qui? De troupes. Et contributeurs de la logistique et de fonds. Parce qu'il y a ceux qui amènent juste la logistique. C'est moi, chez Qatar, tout à l'état tout, ma hélicoptère. Il y a d'autres pays qui vont donner la moitié. Comme les États-Unis qui a dit, le budget de cette mission, les États-Unis prendront déjà la moitié du budget. Mais le problème à l'international, ça yo-yo, c'est pas aussi facile que ça. L'OTAN n'existe presque plus. Parce qu'avant, quand les États-Unis disaient, nous donnons la moitié, l'Union européenne donnait l'autre moitié, ou donnait l'autre moitié, et les autres amènent juste de la logistique, et ça part. Mais aujourd'hui, je suis content que le débat ait quitté le sol asiatique vers le sol européen. Bien que la Suisse soit un pays neutre, mais c'est sur le sol européen. Et pour moi, mon inquiétude va baisser jusqu'à ce que je verrai l'implication des Européens dans ce processus. Pourquoi? Il y a un certain nombre d'éléments d'historicité que nous avons avec les pays européens, et que les États-Unis et les pays arabes n'étaient pas aussi présents par rapport à l'accompagnement de notre marche vers, d'abord, la colonisation, la décolonisation, la marche vers la démocratie, et même pendant les autres processus de paix, il y a des éléments d'historicité que les Européens détiennent et que nous, ici, on ne peut pas négliger.
Merci beaucoup.
Donc, il faut que les Européens rejoignent la barque et cela va dépendre de la flexibilité de Boulos et de Trump. Il faut qu'il soit très, l'inflexibilité du régime Trump aussi ne joue pas à notre faveur. Il faudrait que au niveau
diplomatique que les États-Unis baregeze Europe kidogo pour que chance ya paix mu Congo iongeze.
Merci beaucoup Emmanuel Bengué, quelles sont les prochaines étapes envisageables à votre avis?
Bon, merci beaucoup. Les prochaines étapes, nous on penserait que d'abord c'est le respect de ces accords ou de ces communiqués. Parce que la crainte que nous avons est que l'histoire des accords congolais montre déjà que plusieurs accords ont été signés, mais peu d'accords sont appliqués en intégralité. Et c'est là où il y a la crainte. Parce qu'aujourd'hui, vous comprenez que dans le communiqué qui a été rendu public, ils ont beaucoup insisté sur le couloir humanitaire. Or, si vous pouvez entrer en profondeur, l'importance de ce couloir humanitaire ne viendra pas seulement normaliser les pouvoirs de l'AFC dans les territoires que l'AFC contrôle, mais ça va aussi contribuer sur la circulation libre de la population et de toutes les parties prenantes au conflit. Mais ce que nous pouvons penser est que la réalité normalement sera vécue à Bukavu, à Goma, à Uvira et dans toutes les zones où il y a la guerre. Parce que ce n'est pas les communiqués de Suisse qui montrera la réalité. Mais la réalité, c'est nous qui allons vivre la réalité et c'est nous qui, n'est-ce pas, qui allons expliquer ou témoigner que ces communiqués ou ces accords ont été respectés. Mais le problème continue à persister parce que la question que l'on doit se poser, est-ce que la population déplacée verra-t-elle un changement concret? Et comment cette population peut voir ces changements? C'est en rapport avec les actions qui sont prévues. Parce que si l'aide n'arrive pas vite, est-ce qu'il y aura la crédibilité de ces tests qu'on a signé en Suisse? Parce que la population actuellement, si vous pouvez compter, nous avons plus de 14 mois, je pense aujourd'hui. La population n'a jamais été assistée. Et quand on signe des accords comme ça, la population pense directement qu'il y aura déjà un changement. Les changements que nous attendons, normalement, allaient commencer par l'effectivité de ces plusieurs signatures qui sont posés ici et là.
Effectivité, par là, vous parlez, par exemple, du respect du cessez-le-feu.
Du respect du cessez-le-feu, comme on l'a dit.
Et les armes s'étaisent par ce par-là, que l'aspect humanitaire soit
respecté,
que les infrastructures d'utilité publique soient épargnées des combats.
Des combats comme...
Et qu'on libère également les prisonniers.
Les prisonniers,
parce que c'est contenu dans le communiqué.
Parce que, à côté de ça, il y a des questions que les gens se posent. Qui contrôle réellement toutes les forces pro-gouvernementales? Parce qu'il y a lieu que Kinshasa signe aujourd'hui avec le FCM23, mais les Ouazalendo nient cette signature. Ça, c'est l'exemple que l'on se pose. Parce qu'on ne peut pas aussi ignorer cette hypothèse. Parce qu'il arrive des fois où Kinshasa prend une décision, mais le lendemain, c'est les Ouazalendo qui ouvrent le feu. Comme l'ami Dani Bachig de l'FCM23 a dit, qu'ils sont toujours en train de recruter, de renforcer, parce qu'ils ont une crainte que Kinshasa ne puisse surprendre. Et donc les deux côtés, les deux parties, ça s'entraquise et quand ils signent comme ça, ça paraît comme si Kinshasa signe des accords pour garder son positionnement diplomatique à l'étranger, mais aussi l'AFC aussi, quand il signe avec Kinshasa, c'est que il gagne petit à petit sa crédibilité au niveau national et dans les zones surtout occupées et qu'à l'échelle internationale. C'est pourquoi nous avons pensé que il serait très urgent que les accords, surtout déjà signés, surtout ces communiqués qui donnent déjà l'espoir dans les zones occupées, qui est normalement l'application et que c'est cette application qui va témoigner vraiment qu'il y a ce qui se passe. Mais il y a une question que l'on doit se poser. Actuellement, les gens, quand les gens lisent plutôt ces communiqués, les gens pensent que c'est cet accord qui vient mettre fin à la guerre. Mais nous avons analysé, nous avons pensé que c'est une forme de... Comment? C'est la guerre, c'est une phase de négociation structurée. Donc c'est l'entrée de la guerre dans une phase très structurée. Donc une négociation structurée. Mais la guerre jusque-là,
que ça soit le cessez-le-feu, que ça soit, je sais pas moi, l'ouverture de couloirs humanitaires, mais ça paraît comme une entrée de guerre dans une phase structurée qui s'organise parce que ils sont en Suisse aujourd'hui, mais ceux qui sont à Kinshasa, ils ont d'autres analyses, ceux qui sont à Bukavu, à Goma, ils ont d'autres analyses. Pour dire, on dirait les gens, ils sont en train de se piéger, oubliant que c'est cette population qui est toujours victime. Et c'est pourquoi nous avons toujours recommandé qu'il y ait le respect surtout de toutes ces signatures qui sont merci. Signées. Merci. Et ça va nous aider. Mais la question qu'on a posée, à côté de tout cela, est-ce que l'AFC-M23 acceptera un gel territorial sans contrepartie politique? Parce que ce qui se fait actuellement, c'est non sur le long terme, parce qu'on ne voit pas ce qui s'organise actuellement, qu'un jour Kinshasa demande à l'AFC de quitter Bukavu, de quitter Goma, et que ça passe comme ça. Il y a toujours des craintes autour de ça, et c'est pourquoi si vous attendez qu'il y a toujours des recrutements de la part de l'AFC-M23, des organisations...
Donc, il faudra faire des grandes concessions pour obtenir, par exemple, ce dont vous faites allusion.
Visiblement, parce qu'ils ne peuvent pas accepter de libérer comme ça, parce que derrière tout ça, il y a l'intérêt que nous ne pouvons pas... savoir, mais derrière ça, visiblement, il y a un intérêt parce que lorsque les autres demandent, donnez-nous l'accès à l'aéroport, vous aussi vous voulez demander, vous comprenez, il y a des conditionnements d'abord. Lorsqu'il y a déjà des conditions posées par les deux parties et que les deux parties n'arrivent pas à s'attendre, c'est-à-dire il y a l'intérêt. Et c'est l'intérêt là qui cause problème, malheureusement, leur intérêt qui ne vise que les âmes que nous avons perdues et que nous continuons à perdre.
Merci.
Et c'est pourquoi
avec votre autorisation, je voulais donner un peu de précision sur la dernière question. C'est une question très très importante. C'est pourquoi il faut comprendre les 8 protocoles dans leur succession et dans leur intégralité. Ici, on est en train d'isoler un seul protocole. On a analysé les protocoles de mécanismes de libération, suivis par les mécanismes de surveillance et vérification de cessez-le-feu. Le troisième protocole, c'est celui-ci que nous sommes en train d'analyser. Le quatrième protocole est intitulé « Restauration de l'autorité de l'État, réforme et gouvernance partie ».
C'est là qu'on va décider.
C'est là où qu'on va
accorder
aux zones administrées par les uns et les voilà. autres. Mais il y a EHIC. Pour le gouvernement, la restauration de l'autorité de l'État, ça signifie M23 Mutoke, Shinjobe Mungini,
Anaoudia
Bukavu. C'est ça pour le gouvernement. Et la population doit être en train de comprendre. Parce que nous, en tant que société civile, notre rôle, c'est d'informer la population sur ce qui est en train de se passer. Mais pour les M23, ils disent, soit nous continuons jusqu'à chasser Tshisekedi, ou que le gouvernement, comme tu n'as pas ta accord, nous allons vers la co-gestion des espaces, moyennant notre participation à l'espace décisif central.
C'est-à-dire que l'accès envoie
des
délégués dans le gouvernement central,
dans l'état-major général de la police, de l'armée, des GEM, tout ça, les deux ministères, ainsi de suite.
Et que le chef qui joue,
et puis,
un gouverneur de l'AFC,
gouverneur par exemple, de la société civile ou du gouvernement. Et tout ça, c'est comme ça que c'est en train d'être passé. Pensez. Et nous, on dit, lorsqu'on va en arriver à cette étape, il faut un dialogue global, inclusif. Je rends toujours ça. Ce genre de sujets, vous ne pouvez pas les laisser à ceux qui sont en face comme belligérants sur le front, et les laisser encore en face comme interlocuteurs sur la table de négociation. pour qu'à un certain moment, les uns et les autres rabaissent un peu leur ego et mettent de l'eau dans leur vin pour l'intérêt de ces communautés qui n'ont que trop souffert, nous allons être obligés d'en arriver à une dynamique d'un dialogue, je m'excuse, ou des négociations globales et inclusives. D'ailleurs, si ça ne dépendait que de moi, que ce protocole ne suive pas directement celui qu'il précède, qu'on le mette un peu
en arrière.
Ça, c'est, je vais parler avec les négociateurs par les canaux que nous avons en tant que société civile pour lui dire que le quatrième protocole ne suive pas le troisième protocole. Parce que si on commence ces débats, Bitez et Chia parle.
Voilà. Et nous citons ce que le doyen Ignace Mupira a toujours dit dans ce studio. On va sur la table de négociation avec un verre plein et on y retourne avec un verre à moitié plein. Il faut que les uns et les autres comprennent la situation. La situation, elle est complexe et pour aboutir à une solution, il faudra faire des concessions. Voilà, il faudra avoir des nerfs solides pour aller jusqu'à la fin d'année. Recommandation pour clore ce débat au parti.
Bon, je pense que ce débat a été riche. En tout cas, avec la participation de tous les amis, les Congolais ont compris quel est le vrai problème. Parce qu'il ne faut pas que les gens soient en train de penser que yenye tunawaza njo vérité. Au vérité, il faut faire singine. Et comme vous me demandez de donner un point de vue pour aller vers la conclusion, je vais vous dire que je souhaite dire que nous pensons laisser d'abord l'homme de la MONUSCO circuler. Il a été au Nord Kivu, qu'il a un peu partout. Il va certainement faire des observations. Il ne faut pas penser qu'il est venu seulement voir comment les mécanismes de cesser le feu peuvent être en œuvre, mais il vient aussi étudier. Il y a des choses, parce que des fois les gens parlent du Congo sans connaître les vrais problèmes du Congo. Avec sa présence, certes qu'il va faire d'autres études, il va découvrir des choses qu'il ne connaissait pas. C'est que peut-être on leur a toujours dit, là aux États-Unis, à Doha et partout ailleurs, maintenant qu'il est sur terrain, il y a des choses qu'il va découvrir, qui risquent de nous mettre encore en position de force. L'ami Bengay venait de dire que déjà avec le fait de se retrouver en Suisse avec le début de négociation, le mouvement est reconnu, on est maintenant interlocuteur valable avec le gouvernement de Kinshasa, ce qui est vrai, c'est une réalité. Mais déjà avec l'arrivée de l'homme de la MONUSCO, il va certainement faire d'autres découvertes et il va comprendre que l'AF-523 n'est pas ce qu'est pensé. Mais voici la vraie vérité. Et peut-être qu'il faut dire à Chilombo, il faut faire beaucoup d'attention. Avec vos déclarations ici, avec vos Chilumba ici et consorts, il faut faire beaucoup d'attention, vous êtes en situation difficile.
Ce n'est pas Chilumba. Chilumba, c'est moi. Chilumbaï, c'est qui a fait la.
Chilumbaï.
Chilumba, c'est moi.
Lui, c'est Chilumbaï.
Justement.
Alors,
donc tous les Chilumbaï sont des personnes.
Donc, vous avez compris,
non,
cher
expert. Nous parlons exclusivement du professeur Chilumbaï qui est vice-président de l'Assemblée nationale.
Alors, bon, le troisième protocole, parce que j'ai entendu Mick y insister, et c'est vrai, c'est avec raison, qui parle de la restauration de l'autorité.
Le quatrième.
Qui parle de la restauration de l'autorité de l'État. Ça, c'est un problème très sérieux. Et je crois que ça va demander la sagesse du négociateur pour arriver à nous faire comprendre. Parce que pour les gens de Chilombo, ils savent que la restauration de l'autorité de l'État signifie nous demander de quitter. Bon, nous demander de quitter pour aller où?
Non, l'AFC a déjà commencé à restaurer l'autorité
ça,
de l'État.
Ça, c'est un élément. Bon, et parce que, comme les amis l'ont dit, ils vont demander à leur gouverneur de venir s'installer ici. C'est ça ce qu'ils ont comme idée, c'est ça ce qu'ils pensent. C'est ça la restauration de l'autorité de l'État. Et si nous, on disait, notre compréhension de la restauration de l'autorité de l'État, c'est ne plus voir ce qui est dit dans ce pays. On peut les demander. On voudrait les voir comme un citoyen simple. Parce que si le Congo est par terre aujourd'hui, c'est à cause de cet homme. On ne peut pas accepter de continuer avec un homme qui pense que le détournement des millions, c'est que ce soit le mode de gouvernance. On ne peut pas accepter de continuer avec un homme qui croit qu'à tout moment, il va modifier la constitution ou il va, je ne sais pas faire quoi. D'abord, quand on pense à cela, est-ce que ça ne signifie pas d'abord diviser le pays en deux? Ça signifie balkaniser le pays, en d'autres termes. Parce que vous allez reviser la constitution. Vous allez la réviser même ici où nous sommes. Bon, si c'est pour une partie du pays, ça veut dire vous patronnez tout simplement la balkanisation. Bon, vous dites que bon, les élections n'auront plus lieu en 2028. Et vous pensez que le mouvement AFC M23 puisse vous supporter avec des mots pareils? Non, qu'on se le dise. Donc, je souhaite m'arrêter là en disant que nous attendons que l'homme de la MONUSCO termine d'abord sa tournée et on va suivre qu'est-ce qui va sortir de sa bouche et enfin on pourra avoir quoi dire.
Merci beaucoup Emmanuel, votre mot de la conclusion.
En tout cas, nous avons salué cette initiative parce que ça a coïncidé avec ce qui s'est passé au Burundi. Ça faisait déjà plusieurs mois que nous décrions les conditions dans lesquelles vivaient nos compatriotes qui étaient dans des cas de réfugiés au Burundi. Et nous pensons que c'est notre voix a été attendue par les partenaires et plusieurs autorités qui étaient impliquées dans ces situations. Et donc nous disons grand merci d'abord à ce niveau parce que nos compatriotes sont actuellement à Uvira et nous avons déjà envisagé d'ailleurs un communiqué au niveau du collectif des organisations de la société civile du Sud Kivu pour la paix que nous allons adresser au HCR et lui demander de s'impliquer parce que nous pensons que ce n'est que le début et nous pensons que comme ça une relation avec ce que nous discutons ici ça va donner la confiance à la population que normalement ce qui se décide que ce soit en Suisse projette quand même un espoir pour la communauté. Mais nous pensons qu'avec ce qui se passe actuellement, nous sommes conscients que ce n'est pas la fin de la guerre, comme nous avons dit. Pour l'AFC, c'est déjà une réussite diplomatique. Pour Kinshasa, c'est aussi une façon de garder aussi sa diplomatie à l'échelle internationale et montrer aux gens qu'il est prêt pour la paix, mais aussi pour le respect du cessez-le-feu parce que on ne peut pas oublier que chaque fois qu'il y a atrocité, l'AFC accuse Kinshasa et de retour Kinshasa accuse l'AFC 23. Et c'est pourquoi nous pensons que avec des accords pareils, il serait très important que les belligérants s'évitent surtout ces accusations et surtout que au niveau du terrain, ce qui se passe normalement, ça ne témoigne pas ce qu'il signe. Et c'est pourquoi nous pensons que avec ce communiqué qui a été rendu public en Suisse, nous voudrions bien que la MONUSCO qui va accompagner surtout le respect de ce signataire reste en contact avec la communauté comme Mick me dit qu'il doit y préciser. Normalement, on doit impliquer la société civile, on doit impliquer les chefs coutumiers, on doit impliquer les communautés qui sont touchées parce que ce sont des communautés touchées qui vont témoigner si réellement il y a le cessez-le-feu. Ce sont les communautés touchées qui vont témoigner s'il y a déjà les couloirs humanitaires ouverts au niveau des zones touchées. Et donc, s'il y a écartement logique et laisser les deux parties au conflit s'attendre et avancer, s'évaluer elles-mêmes, ça n'arrivera pas. Et donc, il doit y avoir également une troisième partie ou une troisième voie qui montre clairement ce qui se passe. Ceux qui sont touchés ici, que ce soit à Uvira, ici à Bukavu, à Goma, ils vivent la réalité. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas la signature qu'on a rendu public à partir de Suisse qui va vivre la réalité. Mais c'est à Bukavu, c'est à Goma, c'est à Uvira, c'est dans les Masisi où on doit vivre cette réalité. Et c'est pourquoi écarter les confessions religieuses, écarter la société civile et toutes les forces vives de la République dans dans ces combats, ça serait vraiment une trahison, et cela parce que ce qui se passe est que les mêmes partis qui discutent en Suisse, et c'est le même parti qui crée malheureusement des confusions sur les terrains. Et donc, on ne sait pas qui évalue qui. Et c'est s'acquiser chaque jour, s'acquiser seulement, pendant que la réalité, c'est nous qui la vivons, et nous pensons que il y a lieu normalement que la MONUSCO et tous les médiateurs puissent associer les forces vives pour que nous rassurions que tout se passe bien et que demain ou le lendemain les problèmes soient arrêtés au niveau des zones occupées. Et donc c'est ce que nous pensons, ce qui doit être fait.
Merci
pour qu'il y ait cette confiance entre la population et les autorités.
Merci beaucoup Mick, nous vous disons choukran aussi.
Asanti kwa wasikilizaji, lakini nitaka kukonclure na kusema kama tunaongea bienyi bengine biko banafanya kama shirika la raia, si kama société civile. Nous sommes actuellement en train de poursuivre la campagne citoyenne pour la paix et nous en étions déjà à la définition des thématiques, les référentiels qui vont être écrits par les experts afin de composer ce que nous appelons l'agenda citoyen de paix, parce que nous considérons que jusque là il n'y a que les agendas politiques, diplomatiques, sécuritaires qui sont en train d'être discutés, mais où est la part de la population dans tout ça? C'est pourquoi nous voulons inscrire l'agenda citoyen qui prendra en compte un référentiel sur les infrastructures de base, un référentiel sur les aspects culturels, la santé, l'éducation, l'agriculture, la pêche et l'élevage, l'économie locale et l'économie transfrontalière, la participation communautaire aux différentes réformes, à savoir la réforme sécurité et justice, la DDR, la réinsertion, la réforme foncière, la justice distributive, la justice transitionnelle, c'est-à-dire la paix et réconciliation. Mais nous suspendons, comme on vient de le dire, tous ces travaux pour ne nous occuper que de l'aspect lié à la lutte contre le changement constitutionnel. Pourquoi? Parce que si on change la constitution, tout le consensus à partir desquels on a signé ces accords est en train de tomber à l'eau et caduque. Et nous craignons pour aussi la balkanisation. Ça sera vraiment là, la vraie balkanisation. Donc, nous appelons la population à rester attentive. Au courant de la semaine, nous allons faire des appels par rapport aux différentes actions qui seront en train d'être menées progressivement par rapport à cet aspect d'empêcher les changements constitutionnels.
Merci beaucoup à vous, Mick Moutiki. Nous vous disons merci. Cette émission a connu la participation de Joseph Baraka de l'Institut Patrice Emery Lumumba, Mick Moutiki, président du cadre de concertation de la société civile du Sud Kivu, Dani Bachigi, qui est cadre de l'AFCM 23, et Emmanuel Benguea, co-modérateur du collectif des organisations de la société civile du Sud Kivu pour la paix. Jean-Claude Ndage a assuré la mise en onde exactement 10h12 à Bukavu. Vous suivrez cette émission en rediffusion lundi 27 avril 2026 à partir de 19h30. Passez donc un bon dimanche en compagnie de Radio Mandeléo. Au revoir.
Merci.